Aujourd'hui dans The Game Makers, on va parler du netcode des jeux vidéo. Comment mettre en réseau deux machines? Gère-t-on de la même façon 2 ou 100 joueurs en réseau? Pourra-t-on toujours blâmer le lag lorsque l'on perd à la fin de cet épisode? On y répond tout de suite. Bonjour et bienvenue dans The Game Makers, le podcast qui connecte les connaissances sur la création de jeux vidéo à votre cerveau. Je suis Adrien et je risque de vous parler du multijoueur dans les jeux mobiles pendant les deux prochaines heures. Avec moi autour de cette table, il y a tout d'abord celle qui va nous expliquer comment aborder les jeux vidéo quand on n'est jamais connecté à aucun réseau. C'est Jade. Bonjour Jade.
Salut.
Il y a aussi celui qui va nous éclairer de son expérience dans moult jeux PVP en ligne, c'est Antoine. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Et enfin, celui qui va plonger les mains dans le netcode pour en ressortir toute l'information dont vous avez besoin, c'est Gugli. Bonjour Gugli.
Coucou.
Et ce mois-ci, malheureusement, pas d'invité. C'est Gugli qui sera notre expert en netcode. L'épisode devrait donc être un petit peu plus court que d'habitude, mais on l'espère tout aussi intéressant.
Ouais.
Pourquoi on n'a pas d'invité? Parce que c'est compliqué à trouver. Hein.
Effectivement, c'est une spécialité en fait dans le jeu vidéo qui n'a pas forcément énormément de pratiquants, on va dire, parce que ce n'est pas quelque chose qui évolue aussi rapidement que, par exemple, le code des cartes graphiques. Et c'est vrai que la plupart des gros projets aujourd'hui ont soit des libs internes dans les studios qui voilà, n'évoluent pas très souvent, ou basés sur des gros moteurs de jeux, que ce soit Unreal ou Unity, qui fournissent déjà tout ça.
Donc, vous l'aurez compris, on est aujourd'hui réunis pour parler du netcode dans les jeux vidéo. Donc, le netcode, c'est toute la partie réseau qui permet de faire jouer des joueurs du monde entier sur la même partie. Et tout d'abord, on va parler un petit peu d'actualité. On est le 17 juin 2019 et voici quelques actus que nous avons relevées.
Alors, en ce moment, il y a beaucoup d'actus jeux vidéo. On peut parler tout d'abord de l'E3, donc une des plus grandes conférences de jeux vidéo. Donc, c'est le moment où toutes les grandes annonces arrivent. On a à la fois les éditeurs,
Les constructeurs.
Voilà, les constructeurs, enfin, puis un peu tous les studios qui présentent leurs jeux. On a eu aussi pas mal de nouveautés, puisqu'il y a eu Stadia qui, cette fois, est arrivé, on va dire, en ligne, donc avec la conférence Google. On a eu de plus en plus d'offres d'abonnement, ce qu'il n'y avait pas forcément avant. Et en fait, on se rend compte qu'à l'E3 de cette année, contrairement à d'autres années où c'était beaucoup des annonces et des surprises, là, en fait, en ayant un peu de recul sur toute la conf, il y a eu finalement assez peu de grosses annonces, puisque la plupart des éditeurs avaient décidé d'annoncer leur jeu en amont. Donc, ouais. Voilà.
Je ne suis pas d'accord, il y a l'histoire du remaster de Final Fantasy VIII, et je suis très heureux. Je pensais que c'était plus possible, que ça n'arriverait jamais. Donc, je suis très content.
Voilà, et puis bon, l'autre grande nouvelle, c'est aussi que Hollow Knight 2 était présent à l'E3, mais voilà. je n'en dirai pas plus. Sinon, dans les autres nouvelles, cette fois plus dans l'industrie, c'est toujours chez Riot. Il y a eu, il y a quelques temps, en fait, des gros soucis de... Enfin, on a appris qu'il y avait eu des gros soucis de harcèlement sexuel. On pensait que c'était un peu derrière eux, puisqu'ils avaient montré patte blanche en disant à quel point ils avaient fait des efforts. Et malheureusement, ça n'a pas l'air d'avoir payé, puisque pour la première fois dans l'industrie du jeu vidéo... alors pour la première fois peut-être pas parce que finalement il y a eu Gen System, mais en tout cas il y a eu une grève, oui. Il y a eu une grève à Riot, donc des gens qui ont vraiment manifesté devant le studio, et on se rend compte en fait que c'est assez rare dans cette industrie parce qu'il y a pas vraiment, il y a très peu de syndicats, les travailleurs dans le jeu vidéo sont assez peu protégés, et donc c'est assez important de le noter que ça arrive aujourd'hui.
On l'a déjà dit dans un autre épisode, mais en France on a le STJV qui s'occupe de ça, qui est le syndicat de référence pour les travailleurs du jeu vidéo. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter si vous-même vous faites du jeu vidéo et que ça vous intéresse.
Et enfin, bon, je suis obligée de faire un petit instant promo.
Ça y est, enfin,
ça
on
y
va
est,
savoir.
Voilà. Je peux enfin parler du jeu sur lequel je travaille depuis 2 ans, puisque Ubisoft l'a enfin révélé, c'est Ghost Recon Breakpoint. Donc voilà, c'est la suite de Ghost Recon Wildlands. Donc voilà, c'est pareil, c'est très différent, il y a plein de choses en plus.
Il y a des drones, on a vu, il y a des drones.
Hein, c'est ça.
Voilà, non, si, il y a des drones, c'est vachement bien, c'est vachement futuriste, mais pas trop, enfin voilà.
Et il y a le Punisher dedans.
Et il y a le Punisher dedans, non, voilà.
Très important.
Et, qui était sur scène d'ailleurs, sur l'E3, avec son petit chien, qui a fait autant de succès que Keanu Reeves, je pense.
Mais... je ne suis pas d'accord, Keanu Reeves a fait forte impression. Je pense que le minibar a fait forte impression sur Keanu Reeves aussi. Mais effectivement, bah, félicitations. Enfin, bah oui. Après tout ce temps, on peut enfin dire, enfin parler de ce sur quoi tu travailles.
T'as plus peur de dire, sans faire esprit, une boulette, quelque...
C'est ça. Donc,
non.
Il n'y en a plus les regards gênés, genre j'ai le droit de le dire ou j'ai pas le droit de le dire, ça,
ouais,
c'est bon.
C'est ça.
Non, enfin, on va pouvoir passer au dossier maintenant. En commençant par l'histoire en trois dates.
Pour les trois dates de cet épisode-ci, j'ai choisi la première. Alors la première occurrence de jeu que j'ai trouvé qui faisait du multi non local via. Alors c'était pas via Internet, c'était en communication modem. C'est Flight Simulator 2 en 86 pour l'Atari ST et le Commodore Amiga. Et donc c'était juste à deux, mais c'est probablement en tout cas c'est la première occurrence que j'ai trouvée où il y a des développeurs qui ont dû se poser la question du lag, de la synchro et ce genre de questions qui en fait sont les questions principales qu'on se pose quand on fait un jeu en multi. Et donc voilà, je pense que c'est la première, en tout cas le premier cas de trucs comme ça.
Ouais. C'est assez intéressant de se dire que là, pendant la conf Google, justement sur Stadia, je crois qu'il y avait aussi Flight Simulator, qui du coup montrait une autre avancée technologique, ouais. Ah, voilà, ils sont assez précurseurs sur plein de trucs finalement.
Ouais, Flight Simulator, je pense qu'ils avaient des bons devs à l'époque sur plein de sujets. Et puis toujours d'ailleurs. Et donc, deuxième date, parce que bon, je pense que c'est resté quand même assez anecdotique. De toute façon, les jeux multi, bah, c'est fortement lié à Internet. Donc, enfin, il y a des avancées techniques qui existaient avant. Mais du coup, la deuxième date que j'ai choisie, c'est en 93, Doom. Parce que je pense que c'est le premier jeu qui a eu du gros succès, y compris pour son multi, avec des gens qui, peut-être qui se sont rencontrés autour du jeu et pour jouer au jeu, voilà. Donc, qui permettait de jouer jusqu'à 4, si je ne me plante pas. Et voilà. Et donc, je crois que... Alors, je n'ai pas réussi à trouver. Je cherchais une date qui était le premier jeu dans lequel on pouvait rejoindre une partie en cours. Parce qu'en termes de netcode, c'est un problème particulier de rejoindre une partie en cours et de ne pas être synchronisé depuis le début. Et Doom, ce n'est pas le cas. Je crois que Doom, il fallait être 4 au début et on lançait la partie. Et donc, je n'ai pas réussi à trouver le premier jeu qui permet de... Voilà.
On t'en veut pas.
C'est une recherche assez pointue
si
quand
vous
même.
Le savez. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand tu cherches ça sur Google, machin. Enfin, c'est difficile. Et enfin, troisième date, qui sont un peu deux dates, mais j'hésitais l'un ou l'autre. J'ai pas réussi à la trancher. C'est 97 avec Ultima Online et 2004 avec WoW, qui sont quand même des jeux qui ont. C'est pas les premiers MMO, mais c'est pareil. C'est les MMO qui ont, on va dire, explosé et qui ont dû être face. Enfin, les développeurs de ces jeux-là ont dû être face à des problèmes. D'un ordre de grandeur que les développeurs des jeux d'avant n'avaient pas eu. Et donc, je pense que c'était une grosse avancée aussi dans la technique des jeux multi. Voilà.
C'est clair qu'entre un jeu à 4, une partie multijoueur à 4 ou un serveur avec des centaines ou des milliers de joueurs, c'est un peu...
Ouais, c'est ça, quoi.
Puis c'est un des rares trucs que tu ne peux pas tester trop avant. Quoi. Tu dois sortir le jeu et puis voir ce qui se passe. Quoi.
À l'époque, mais... maintenant, typiquement, tous les studios font ça. Enfin, c'est aussi à ça que ça sert, les alphas, les bêtas.
Et à l'époque, je pense que les courbes de progression des joueurs étaient peut-être... Enfin, il y avait de l'attente et il y avait des magazines, mais je pense que c'était quand même un marché plus réduit aussi. Et donc, je sais pas comment c'est passé.
Les Adopters qui étaient un peu plus sympa.
La release studios, de quoi. Ultima Online, je pense que ça n'a pas été day one, des millions de joueurs, machin.
Erreur 37.
Ouais, voilà.
C'est
sur WoW, peut-être plus. Sur WoW...
C'est intéressant de se dire que là, dans les dates, on voit aujourd'hui, les jeux en ligne, maintenant, c'est une énorme partie des jeux, que ce soit rien qu'avec les Battle Royale en ce moment, qui apportent aussi un peu des challenges un peu différents, ou même maintenant, n'importe quel jeu. J'ai l'impression que c'est compliqué de trouver même des jeux solo qui n'ont pas genre, les saves en ligne ou qui n'ont pas des updates. Du coup, tu es obligé d'être connecté.
Les jeux mobiles où tu es obligé d'être connecté alors qu'il n'y a aucune partie réseau, tu ne peux pas jouer dans le métro.
Ouais, après c'est pas tout à fait. Moi c'est en tout cas c'est pas ce dont j'ai parlé évidemment parce que c'est pas des jeux où il y a c'est pas franchement du netcode que de synchroniser des sauvegardes. Mais par contre c'est vrai que même aujourd'hui des jeux des grosses expériences solo proposent de la coop. On voit je pense au Divinity par exemple de Larian, on se dit mais Baldur's Gate il y avait déjà du multi je crois ou Icewind Dale il y en avait déjà. Je sais plus. Bref, il y a un moment dans les vieux jeux où ils avaient commencé à intégrer de la coop multi et ça marchait très bien. C'est vrai que maintenant, ça paraîtrait vraiment bizarre. Enfin, c'est pas que ça paraîtrait bizarre, mais c'est qu'en tout cas, ça paraît une grosse restriction à se mettre en tant que développeur de dire si on peut mettre de la coop, est-ce qu'on le fait ou pas ? Il vaut mieux quoi. Et pourtant, c'est coûteux en termes de. Enfin, ça pose pas mal de problématiques. Mais c'est vrai que maintenant, je pense que les joueurs ont l'habitude de pouvoir partager, de pas jouer forcément tout seul.
C'est ça, parce que même des jeux qui on a vraiment l'impression qu'ils sont en solo, genre je pense à Journey, Journey, tu il y a une partie coop, alors que qui est pas forcément volontaire, parce que des gens peuvent rejoindre ta partie sans que tu le saches vraiment. Mais rien que ça, voilà, il y a plein de jeux qui sont en coop ou en multi sans que vraiment tu t'en rendes compte, tellement on est habitué à ça en fait.
Ouais, ça me faisait penser à Dark Souls aussi, où t'as des gens qui peuvent rejoindre et c'est un peu le bordel.
Ouais, bah oui, oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est remettre l'aspect social dans le jeu, c'est aussi normal qu'on arrive à ça, quoi.
Même Stardew Valley, tu peux jouer en coop et...
Surtout Stardew Valley.
Mais ouais, et c'est vrai que, bon, maintenant, c'est vrai, avec le streaming, je pense qu'il y a aussi un aspect où des jeux complètement solo peuvent avoir un aspect social et pas avoir l'impression de jouer tout seul. Moi, je vois des gens, des jeux où c'est facile de jouer à plusieurs, on va dire, via du streaming, même à 3 ou 4 personnes. Par exemple, Magic the Gathering, là, Arena, qui est sorti il n'y a pas très, très longtemps. Enfin, ça commence à faire un peu, mais... Oui. Et en fait, à plusieurs, c'est comme si tu étais 3 derrière la table, mais du coup, c'est rigolo aussi, et puis tu papotes, et il y a un aspect social super marrant. Je pense, mais comme c'est un jeu de cartes, il n'y a pas de... Il n'y a pas de temps réel, et donc en fait, tout le monde peut donner son avis, ça peut débattre, et en fait, c'est aussi marrant. Et donc, peut-être que maintenant, avec le streaming, il y a toute une partie de jeu qui n'aurait pas osé assumer complètement le solo, full solo, qui vont pouvoir, en se disant, au pire, les gens, s'ils veulent le côté jouer avec des potes, ça ne change pas grand-chose s'ils se mettent à plusieurs, machin. Et peut-être qu'avec des technologies cloud, faut voir ce que ça donne, s'il y a des moyens de partager, ainsi de suite, ça peut être aussi marrant de dire, on se fait passer la manette comme on fait quand on est devant un jeu solo, à dire « Ah ben voilà, le prochain qui meurt, ben voilà, tu meurs, tu fais passer la manette, quoi. » Et ça, peut-être, ça va revenir. Et du coup, c'est vrai qu'en termes de dev, ça peut être une liberté aussi, en plus, sans avoir la contrainte de dire « Eh, si on fait pas de multi, on est un peu nul, quoi. »
Ça me fait penser à un jeu solo qui a pas trop fait parler de lui, mais où chaque personne pouvait jouer qu'une fois, et il y avait qu'une personne qui jouait sur une partie unique.
Ah oui,
une partie unique du jeu. Et chaque personne jouait, et c'était streamé. Donc tout le monde pouvait regarder, et interagir, et discuter. Une fois que tu mourais, ça passait à quelqu'un d'autre qui reprenait la partie, en fait.
C'est marrant comme concept.
Faudra qu'on retrouve le nom, je sais plus comment.
D'un point de vue business, je suis pas sûr que ce soit très...
Non, mais c'était plus un truc un peu expérience, mais...
C'est ça, l'expérience sociale. Bon, on a bien fait le tour des trois dates, déjà.
Ouais.
Pas de présentation d'invité cette semaine, parce que pas d'invité. Et du coup, Gugli, rebelote, le dossier, il est pour toi.
Ça roule. Alors, je vais donc commencer le dossier par... Donc j'ai coupé en trois grosses parties, mais les deux premières, c'est ce qui se passe d'abord sur le client et sur le serveur. Et donc je vais commencer par ce qui se passe sur le client. Il y a pas beaucoup de mots, ouais.
Peut-être juste pour être vraiment tous au même niveau, est-ce que tu peux juste donner une définition vite fait client-serveur?
Ouais.
Parce que je sais pas du tout à quel point tout le monde maîtrise ses compétences.
Disons que pour le ce qui nous concerne en début, c'est juste deux ordinateurs. Je vais revenir après sur qu'est-ce qui est sur l'un et sur l'autre, mais il faut juste dire c'est ordinateur A, ordinateur B, et après je vais étoffer là-dessus. Mais tu fais bien de poser la question quand même. Voilà. Donc, c'est ça. On a deux types d'ordinateurs, ils sont un peu différents. On va commencer par voir ce qui se passe sur le client. On va dire le client, pour essayer de donner une définition claire, c'est un ordinateur sur lequel il y a une personne qui joue, avec un écran et souris clavier ou manette ou ce qu'on... même pas d'écran. Mais bref, il y a une personne qui agit directement sur le client. Donc, la première des notions dont je vais parler et qui peut-être est un peu... enfin, qui n'est pas forcément triviale, c'est la notion de réalité. Alors, j'appelle ça réalité au pluriel. Enfin, en fait, c'est la notion des réalités parce que c'est un des gros problèmes du code multi, c'est qu'il y a plein de réalités. Donc, qu'est-ce que c'est une réalité? C'est l'ensemble des informations qui permet de décrire l'état d'une partie à un moment donné. On peut appeler ça la scène, on peut appeler ça l'univers, on peut appeler ça ce qu'on veut, mais je trouve que le terme de réalité permet parfois de voir mieux certains trucs rigolos qui se passent, parce qu'on imagine bien les réalités parallèles et le retour dans le temps et tout.
C'est
et
ça,
quand on appelle réalité...
Tu vois qu'il y a une notion de différence, alors que une scène ou un univers, ça fait plus... Il y a plus un côté scène 3D où t'as mis tous tes objets,
voilà,
tu te rends pas
ça.
Compte que c'est... la vitesse de chaque truc, ce qu'est en train de faire chaque personnage, etc. Quoi.
Là, je vais parler surtout des jeux, parce que c'est un peu plus général, qui effectivement permettent de se connecter en cours de partie. Et les jeux avec un point de synchro au départ, c'est plus facile, mais en fait, c'est moins intéressant aussi. Donc, une approche simple pour expliquer un peu comment ça fonctionne, c'est de partir d'un jeu solo. Donc, un jeu solo, sur la même machine, donc le client, il y a sa réalité, où sont tous les éléments, est-ce que les murs sont détruits ou pas. Et à la fois, bah, y a aussi connecté le moteur graphique, on va dire, l'écran, et puis les inputs, clavier, souris, tout ça. Donc, là, il n'y a pas trop de problème, parce qu'en fait, quand le moteur graphique dit « Ah ben, où est-ce qu'il faut que j'affiche l'adversaire ?» Ben, il peut demander à la réalité elle est sur le même ordinateur, ça va prendre quelques nanosecondes pour accéder à la mémoire, mais ça va très vite, et il va avoir la position du joueur, il va savoir où tracer les triangles, ainsi de suite, hop, et le moteur graphique peut afficher la réalité telle qu'elle est. Donc ça, c'est le fonctionnement d'un jeu solo. Ça repose sur le fait que ben, les infos sont disponibles sans prendre de temps. On pourrait imaginer... Je ne pense pas que ça ait jamais été fait, mais on pourrait imaginer une deuxième amélioration, on va dire, si on veut jouer en multijoueur. Donc pour l'instant, on reste avec deux machines uniquement. Et donc de dire, bah, la réalité, on va la mettre à distance. On va la mettre sur le serveur, donc une machine B. Et voilà. Donc le truc, c'est que si ce n'est pas la même machine, qu'est-ce qu'il y a en plus qu'il n'y a pas en solo? C'est de la latence. Il y a un temps de parcours pour... l'information entre le client et le serveur. Et donc, si on fonctionnait avec le même fonctionnement qu'on a en solo, ça veut dire que le moteur graphique, quand il demande la position de l'adversaire, ben, il doit attendre. Donc la latence, voilà, pour une connexion ADSL, ça va être 80-100 millisecondes. Et donc il doit attendre ça, et puis ensuite il peut continuer à tracer. Sauf que ben, si, un jeu a... 60 millisecondes, il a à 60 fps, il a 16 millisecondes pour tracer sa frame. Donc, s'il doit attendre 80 millisecondes pour un joueur, sachant que s'il y a trois adversaires dans la partie, il faut le faire trois fois, on voit que ça va pas pouvoir marcher. Les allers-retours vont être beaucoup trop longs et donc ça va être une frame toutes les genre 5 fps. Voilà.
Là, en plus de ça, t'en as parlé un petit peu au début des inputs, c'est-à-dire que si en plus la réalité elle est de l'autre côté. Toi, quand tu appuies sur avancer, il faut le temps que ton avancer il aille jusqu'au serveur pour que le serveur update sa réalité et te renvoie le truc. Donc, tu as en plus deux fois la latence. Quoi.
Ouais, alors quand on parle de latence, en général, on parle du temps aller-retour. Et donc, mais oui, c'est plutôt. On va parler même de demi-latence. Enfin, je ne sais pas si c'est des vocabulaires standards dans l'industrie, mais en tout cas, pour aider à réfléchir, effectivement. Voilà. Mais je vais y revenir. Donc, voilà, ça serait une approche naïve, mais on voit, bon, ben, bah, ouais, ça. Ça pourrait peut-être marcher en LAN, et encore, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'informations à demander, mais on pourrait imaginer récupérer tout d'un coup, c'est-à-dire que le serveur, il dise « Oh, c'est quoi toutes les informations ?» Et là, si c'est en LAN, ça prend 3 millisecondes, 3 millisecondes sur 16, ça peut peut-être passer. Donc il y a peut-être des jeux, des mini-jeux ou des trucs comme ça qui sont codés un peu comme ça, en disant « Bon, ben voilà, on récupère tout au moment où on en a besoin, et puis voilà, comme ça, il n'y a pas de problème, il y a une seule réalité. » Voilà.
Ah, tout ce qui n'est pas de temps réel, déjà, tu dois pouvoir le faire comme
ah
ça.
Oui,
quoi.
Tout ce qui n'est pas temps réel.
Tu vas faire un jeu d'échecs, oui. Ça va être codé un peu.
Donc, il y a quand même un petit souci qu'on voit apparaître, c'est que s'il y a maintenant plus de deux machines, ben, il y a une des deux machines. Donc, mettons qu'il y a deux clients et donc un serveur. Ben, s'il y a un client qui a 3 millisecondes de ping parce qu'il a une super fibre, connexion fibre, et l'autre 80 millisecondes de ping, et qu'on les met côte à côte, donc ils ont une des connexions différentes, mais ils sont dans la même pièce, on s'aperçoit qu'il y en a un qui voit tout en retard par rapport à l'autre. Parce que bah, il va tout voir en décalé. Et donc ça, c'est pas quelque chose qu'on veut forcément. J'y reviendrai évidemment plus tard. Mais voilà, on s'aperçoit, ah ben bah oui, voilà, la latence a un impact direct.
Ceci dit, j'y pense, cette histoire de réalité unique sur un serveur, c'est tous les jeux par navigateur en fait. Où ton client web va demander au navigateur, au serveur, quelle est la réalité actuelle. On va la récupérer dans ton navigateur. Bon, du coup, c'est pas du temps réel.
Ouais.
Non, c'est jamais du temps réel. Mais il y a une seule réalité qui est la base de données du serveur et puis basta quoi.
Effectivement. Alors après, il y a peut-être des trucs dont on parlera après qui sont la prédiction. Je pense que les jeux qui font un petit peu du temps réel, même un jeu browser, il faut.
Oui, ce genre bien sûr. Moi, je parle des vieux jeux à la Dinopark.
Mais effectivement, même les O-Games ou les trucs comme ça qui peuvent être classés comme des jeux multi, je pense. Enfin, c'est full. Ouais, c'est comme ça, quoi. En fait, t'as une seule réalité, du coup, bah, t'as pas de problème.
Dinopark,
moins de problème.
Dinopark, d'ailleurs, qui a été fait par Motion Twin à l'époque. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'eux. Motion Twin, n'hésitez pas.
Et donc, petite amélioration qu'on peut apporter à ce système multijoueur, on va dire rudimentaire, ça serait de dire, bah, on va faire une copie de la réalité sur le client. Et le serveur va envoyer, dès que le serveur change quelque chose dans sa réalité, il va avertir tous les clients en leur disant « Ah ben voilà, il y a un joueur qui s'est déplacé, il est maintenant, il est à tel endroit. » Et donc, les clients, ils reçoivent ça, ils mettent à jour leur réalité, mais le moteur graphique du client va directement taper dans la réalité locale du client. Et donc là, on voit que ça fait une copie, ça fait... l'information n'est plus à un seul endroit, mais par contre, ça fait que on est à 60, enfin, si le moteur graphique gère 60 fps, il n'y a plus de variabilité de ça. Enfin, ça dépend plus du ping. Et d'ailleurs, ça a un gros avantage parce que la latence, quand on dit 80-100 millisecondes, en pratique, sur du réseau, c'est plus, on va dire, la plupart des cas, 70 millisecondes, et puis de temps en temps, 200. Donc, c'est le réseau, c'est quelque chose de vraiment, enfin, faut pas compter sur de la robustesse, et donc avoir par exemple de l'affichage qui en dépendrait, ça ferait vraiment des hoquets, enfin désagréables vraiment.
Ouais, on sait toujours qu'il faut plutôt des genre 40 fps stable que un peu 30, un peu 60.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc là, effectivement, une copie sur le client, ça résout le problème de la fréquence d'affichage, ainsi de suite. L'affichage ne dépend plus du tout du réseau. Tant mieux, heureusement, parce que c'est vraiment la mort.
Du coup, c'est dans ce cas-là où, quand il y a un désaccord entre le serveur et le client, on récupère la donnée du serveur et c'est elle qui est maîtresse.
Alors, mais non, là, pour l'instant, je suis toujours dans un modèle très simple où le client ne change jamais sa réalité et il fait juste appliquer ce que le serveur lui envoie.
D'accord.
Et donc là, on s'aperçoit donc que ça ne règle pas le problème de la latence si on a deux joueurs côte à côte qui n'ont pas la même connexion. Il y en a un qui passe par le Wi-Fi et l'autre par un truc sans fil. Comme ça, c'est crédible comme scénario. Et ils sont dans la même pièce côte à côte. Et donc là, on s'en aperçoit que s'ils sont tous les deux en spectate, il y en a un peu comme les replays à la télé ou je sais pas quoi, enfin, tu vois, qui est un peu décalé. Et donc
la Coupe du Monde tous les 4 ans dans les bars. Hein.
Et donc cette deuxième approche, on voit qu'elle ne règle pas le problème de deux joueurs avec des conditions différentes qui verraient pas tout à fait, enfin qui verraient la même chose mais pas au même moment. Et par contre, pour revenir sur ce que tu disais plus tôt, là, on se retrouve avec une demi-latence. Et c'est plus une latence aller-retour, c'est si le serveur, dès qu'il fait une modification, il l'envoie au client, il n'y a plus que la moitié d'un temps aller-retour. Donc, si c'est 80 millisecondes de ping, ça passe à 40. Donc, c'est intéressant d'avoir des fonctionnements comme ça en réseau qui ne dépendent pas d'un aller-retour, qui ne dépendent pas trop d'un acknowledge ou d'une réponse d'une poignée de main complexe. Parce que ça fait gagner énormément de latence. Enfin, ça fait gagner du x2 en pratique.
Mais du coup, juste une petite question pour être sûr que j'ai bien compris. Ça veut dire que si toi, tu déplaces ton personnage, tu vas le déplacer dans ta réalité, donc sur ton client.
Alors, pour l'instant, c'est pour ça que ça, c'est la partie 2, c'est ce qui se passe sur le serveur. Pour l'instant, on ne déplace pas les personnages. Ils se déplacent tout seuls sur le serveur. J'aborde les concepts.
Les autres se déplacent.
Mais tu fais bien de demander. Enfin, je veux dire, c'est normal de se poser la question. Et donc... La troisième, on va dire, partie là-dedans, et qui est pour améliorer en fait juste ce système de un serveur avec une réalité qui bouge et des clients qui veulent voir ce qui se passe, c'est le fait de faire de la prédiction. C'est-à-dire que là, ce qu'on a dit, le modèle qu'on a dit, on ne pourra pas faire mieux en fait. Avoir une demi-latence entre le moment où il y a quelque chose qui change sur le serveur et le moment où le client le reçoit, on ne peut pas faire mieux, c'est le temps que met l'information à arriver, donc c'est juste imbattable. Par contre, ce qu'on peut faire, pour éviter que deux joueurs qui ont des conditions différentes ne voient les choses en décalé, c'est synchroniser une horloge. Ça, c'est assez facile, c'est assez connu comme algorithme pour synchroniser des horloges. Ça fait que le serveur et tous les clients vont avoir une horloge synchro, ils ont tous exactement la même date sur leur montre. Et quand... évidemment, quand le serveur envoie des modifications de la réalité, il va les dater. Dire celles-là, elles ont lieu ça a eu lieu à telle date. Et ça permet au client de non pas afficher la réalité que lui envoie le serveur, mais d'afficher une autre réalité sur le client. Donc on en est à trois réalités. Une réalité prédite. C'est-à-dire qu'il va se dire là, je sais pas, il y a un joueur qui est en train de tomber, le client il peut avoir des petits algorithmes pour dire je peux prévoir sa chute, et donc plutôt que de l'afficher aux dernières positions connues dont je suis sûr, je vais l'envoyer à une position estimée. Après, il se peut que le serveur au moment où Donc 80 millisecondes après, il se peut que en fait, y a eu, je sais pas moi, quelque chose qui était passé par là, un tir d'un adversaire ou n'importe quoi, et en fait, la configuration n'était pas la bonne. Mais dans la plupart des cas, ça va marcher, et donc ça augmente beaucoup en qualité ce qu'on voit. C'est-à-dire que là, avec tout cet ensemble d'algorithmes, donc ça va de la petite bidouille à des trucs, on va dire, qui prennent en compte tout le moteur. Mais et donc la prédiction, ça sert à compenser la latence.
Donc c'est là où on a les téléportations impromptues. C'est-à-dire qu'un personnage, le client a eu l'information qu'un personnage devait aller à telle position. Donc le client va prédire tous les mouvements. Et il se trouve qu'entre-temps, il a changé d'avis, il est allé à une autre position. Et le serveur va lui dire, en fait, il est là. Et pouf, on aura une téléportation.
Ouais, alors effectivement, les ratés de prédiction sont en général visibles, quoi. Mais ça serait bien pire s'il n'y avait pas de prédiction.
Oui, bien sûr.
Mais c'est effectivement là où on voit des téléportations qui peuvent être assez impressionnantes, surtout si on a un petit lag à ce moment-là. Notre prédiction, elle continue de prédire en disant bon, ça fait une seconde que j'ai pas eu d'infos, je continue d'essayer de prédire des trucs, et puis d'un coup, ah, ça y est, j'ai des nouvelles infos, et ça remet tout en place là où sont censées être les choses. Et donc là les choses dont je parlais dans la réalité, c'était surtout par exemple des positions, les positions des adversaires, et on peut on voit que quand on commence à mettre en place des systèmes de prédiction, c'est intéressant d'ajouter à ce que le serveur envoie des informations qui aident la prédiction. Par exemple, on va pouvoir ajouter si un joueur appuie sur avancer. Et donc on va ajouter quels étaient les inputs des autres joueurs. Et donc là, on se retrouve avec, non seulement on sait où était le joueur à une certaine date, mais on sait s'il était en train d'appuyer sur avancer. Et en vrai, il y a moins de chances qu'il lâche le bouton avancer. Enfin, si ça fait 500 millisecondes qu'il appuie sur avancer, il y a pas mal de chances que la frame suivante, pendant les 10 millisecondes qui suivent, ou les 20 ou les 30, il continue d'appuyer sur avancer. Et donc, ça aide vachement la prédiction d'avoir ce genre d'informations et tout un tas d'informations connexes, en fait, qui sont pas vraiment, qui servent pas forcément directement à tracer, à transcrire la réalité sur l'écran, mais qui servent à aider la prédiction d'une réalité 50, 100 millisecondes après ce qu'on a reçu.
C'est un peu comme si tu avais... Enfin, j'ai l'impression de voir un peu des maths où si on dit, ouais, en fait, avant de donner X, maintenant, on te donne la vitesse, on t'a donné la dérivée de X. En fait, on va donner plus de dérivées pour que tu puisses un peu plus
exactement.
Affiner.
Exactement. Et si on peut, on te donne la dérivée seconde, la dérivée troisième. Et en fait, c'est... c'est souvent... Enfin, ça améliore énormément la prédiction. Et donc, la prédiction, c'est ça, en gros. C'est juste... si on donne la position à un instant T, c'est pas terrible. Si on donne la vitesse, déjà, tu peux smousser. Enfin, tu vois, tu lises tout ça parce que t'as vachement d'infos. Si on donne la dérivée seconde, c'est caviar. Et puis, tu vois, on peut imaginer plein de... Donc, évidemment, les jeux sur lesquels la prédiction est meilleure, c'est les jeux où il y a de l'inertie. Tu vois, quand tu fais un jeu de tank, t'as pas mal d'inertie. Et donc... En fait, le ping des gens, tu le verras jamais. Tu verras jamais d'erreur de prédiction. Parce qu'en fait, si quelqu'un avance à fond et puis d'un coup lâche et part en arrière, eh ben en vrai, de toute façon, le gameplay fait que ça va ralentir et puis repartir en arrière. Et donc, si la prédiction n'est pas tout à fait bonne...
Au pire, t'as une téléportation de 1 ou 2 millimètres sur un temps de 5 mètres.
C'est
quoi.
Ça, ça se verra pas. Si t'es dans un jeu, par contre, super nerveux, où les gens peuvent faire des petites droites-gauches, des petites esquives et des trucs comme ça... Ben là, une personne qui est en train d'avancer et qui d'un coup se met à reculer, et si c'est instantané, la prédiction va continuer à prédire que la personne avance. Et du coup, au moment où on reçoit le fait, en fait, ça fait déjà 40 millisecondes qu'il est en train de reculer, du coup, là, c'est là ce dont tu parlais plus tôt, qui est on va voir la personne se téléporter parce qu'en fait, elle n'était pas là. Et on avait prédit qu'elle avançait de... Peut-être, si le jeu est vraiment nerveux, tu vois, de peut-être plusieurs mètres, enfin, en 40 millisecondes, quoi. Ou on va dire un mètre, et du coup faut la ramener de 2 mètres en arrière parce que en fait ces 40 millisecondes là elle les a passées à reculer. Et donc c'est là où on voit qu'effectivement le gameplay a énormément d'impact sur en fait la qualité ressentie d'un réseau. Ou inversement, si on veut avoir des gameplays très nerveux, il faut du code réseau de super qualité.
Ouais, c'est souvent pour ça que les FPS sont c'est là où les joueurs les plus vocaux sur le réseau, sur le lag. Ouais. Ainsi que les RTS, peut-être aussi un peu moins.
Les MOBA, je pense, sont pareil, parce que c'est important. Mais c'est peut-être. Enfin, ouais. En fait, les MOBA ont souvent des sorts qui se déclenchent instantanément. Et du coup, il y a un peu le même problème. C'est-à-dire que ton ordi ne peut pas prédire si l'adversaire va lancer ou pas son sort. Donc là, là-dessus, la prédiction sert à rien. Et quand tu le vois, si jamais, en fait, ça fait déjà longtemps que le sort est en train de se lancer et que tu n'as plus le temps de l'éviter, bah, c'est pas agréable.
Après, sur les FPS, quand tu regardes les forums de Counter-Strike ou des choses comme ça, ou les Reddit, tu as l'impression que tout le monde est ingénieur réseau parce qu'ils sont tous en mode « Oui, j'ai eu tel problème de lag, etc. » Et puis le nombre de ticks du serveur, ça ne va pas du tout, il faut les augmenter, etc.
Ouais, ça marchait aussi sur Quake. Hein. Ouais, sur Quake, t'avais tous les gens qui venaient « Ouais, alors là, en fait, tu ouvres de la console et tu mets ce truc à 30 000 et en fait, ça représente ça sur le serveur. Et du coup, si t'as une bonne connexion, ça sera mieux. Mais si t'as une moins bonne, ça marche moins bien. Attention quand t'es en LAN et tout. » Moi, je comprenais que dalle à l'époque. Je faisais « Ok, je vais faire ce que t'as dit. » Des fois, c'était mieux et des fois, c'était moins bien.
Ouais, et puis c'est super difficile à juger mieux et moins bien. Enfin,
c'est ça. Tu dis s'il y avait des configurations magiques, elles seraient déjà dans le jeu, quoi.
Pas forcément, parce qu'il
y a un peu de tweak, mais c'est pas...
Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'il peut y avoir pas mal de tweaks en fonction de... Bah voilà, si t'es en LAN, tu peux faire plein de trucs que tu peux pas faire avec 80 millisecondes de ping. Et donc, c'est voilà. Il peut y avoir plein de trucs à régler. Alors évidemment, maintenant, les jeux modernes, tu fais de la détection de ping un peu en continu. Tu fais ce genre de trucs pour pouvoir adapter les paramètres, tout ça. Mais tu vois, par exemple, la prédiction, bah ouais, c'est pas la même chose. Tu peux faire... Tu peux régler, il y a plein de potards à régler sur les données qu'envoie le serveur, ainsi de suite, si tu veux avoir un truc qui soit adapté aux circonstances du jeu, quoi.
Mais du coup, là, en fait, le réseau, c'est le seul élément de jeu vidéo qui fait qu'il y a plusieurs réalités. Et du coup, ça veut dire qu'il y en a une qui serait vraie et les autres qui ne seraient pas forcément vraies. Et du coup, comment tu gères ça?
Ah ben alors,
laquelle est la
très, très bonne transition sur la deuxième partie. Puisque la deuxième partie, on va parler de ce qui se passe sur le fameux serveur dont on parle depuis le début, qui héberge effectivement la réalité vraie, la réalité authentique, la réalité autoritaire. Et donc, pour parler de ça, petit aparté déjà en premier lieu, c'est qu'en pratique, à l'heure actuelle, c'est pas forcément une machine différente. C'est-à-dire qu'on peut avoir une partie où il y a, mettons, quatre personnes qui veulent jouer en commun. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un qui va être élu. Il y a des algorithmes d'élection, ça s'appelle. Vous pouvez chercher, c'est assez rigolo mathématiquement. Qui va être élu donc, pour devenir le serveur. Et sachant que ces algorithmes gèrent le fait que si jamais ils se déconnectent, bah, ça va analyser un autre, transférer les données, et ainsi de suite.
De manière plus old school, avant, tu avais celui qui hostait, quoi.
Genre, ouais, voilà,
là, je repense à Quake, tu avais celui qui lançait le serveur. Et puis les autres qui rejoignaient quand tu faisais une LAN. Et puis bah, si le mec qui lance le serveur, il a une déco, bah, tout le monde est déco. Et
voilà.
Tu rages sur l'ordi du gars.
Ouais, tout le monde te déteste. Ouais, je me souviens de ça.
Et ça, globalement, ça consiste à faire tourner les deux programmes en parallèle. C'est-à-dire que tu as en général un client et un serveur qui tournent sur la même, dans le même exécutable ou ainsi de suite. Ça avantage un peu celui qui joue sur le serveur parce qu'il n'a pas de ping.
Oui, mais il a la pression. S'il débranche son câble au réseau sans faire exprès,
tout le monde le déteste.
Sans faire exprès quand il est en train de perdre, ouais.
Oui, bah oui, oui, bien sûr.
Et cela dit, toutes les LAN un peu sérieuses, tu mets un ordi de côté et tu mets un serveur dédié, et comme ça, t'as moins de gens qui râlent. Ouais, c'est parce que tu hostes, nanana. Mais cela dit, il y a des jeux où je crois que genre StarCraft, c'était pas faisable. Il y a pas mal de jeux sur lesquels. Bah, tu pouvais juste pas, t'étais obligé d'être en mode host.
Bah, encore aujourd'hui, je pense quand tu joues en multi sur Switch, je sais pas comment ils gèrent ça, mais il n'y a pas de serveur dédié. Quoi,
hein, ouais, non, il n'y a pas de serveur dédié.
C'est tout ad hoc sur le Wi-Fi, ouais. Même pas sur le Wi-Fi, je crois que c'est tout en Bluetooth d'ailleurs le multi Switch.
Je crois que les latences sont catastrophiques avec le Bluetooth.
On arrive à jouer à Mario Kart, c'est l'essentiel.
Okay. Et puis il y a beaucoup de multi local de split screen et de trucs comme ça sur Switch, donc ça
oui. Oui, mais ils arrivent à faire les deux. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire du multi-local plus du multi sur la machine plus du multi via réseau. Et ils arrivent à peu près à tout synchroniser. Bon, ouais, il y a des moments où il y a des carapaces rouges qui font n'importe quoi, mais ça passe.
Ouais.
Ça passe.
Oui, il doit y avoir. Bah là, si on du coup, revient sur la prédiction, il doit y avoir, je pense, une bonne prédiction. Mais c'est vrai que les carapaces rouges, les trucs comme ça, c'est prédictible, en fait. Puisqu'il n'y a pas de.
Oui, tu sais où le bon joueur.
Voilà, c'est ça.
Bah, c'est juste l'algorithme de choix de la cible.
Voilà.
Si c'est à la milliseconde, il y en a un qui est passé devant l'autre, ça part de
ouais,
toi.
Ouais, mais en vrai, je pense que tu peux le... Alors, on va... Du coup, petit aparté sur la prédiction, c'est le genre de truc, tu peux le prédire genre 2 secondes à l'avance. Enfin, je veux dire, au moment où tu lances ta truc, ça se trouve, la cible, elle est déjà... Tu sais déjà, tu vois, quelle va être la cible, quoi. Enfin,
ouais.
T'as vraiment du temps et tu la fais partir tout droit. Et comme ça, au moment où elle commence à... Tu vois, tu lui dis, la première demi-seconde, elle part de toute façon tout droit. Elle a pas, c'est pas grave si elle connaît pas sa cible. Mais en vrai, le serveur, il l'a déjà choisi. Il est déjà en train de l'envoyer au client. Et du coup, quand les clients ils disent ah bah ça y est, il faut qu'elle sorte de son mode tout droit, eh ben là, elle connaît déjà sa cible et elle peut réagir exactement comme il faut.
Tu veux dire que les jeux vidéo nous mentent ?
Petite astuce de prédiction, tu peux voilà. Et mais ça, alors, j'ai pas d'exemple concret en tête sur ce genre de truc, mais c'est des trucs qui du coup sont parfois exploitables en termes de hacking et de triche. C'est que si tu écoutes en termes de paquet réseau, bah, tu es peut-être capable de savoir que tu es la target d'une carapace rouge bien avant que le jeu t'indique que tu es la target d'une carapace rouge, parce que tu as reçu l'info plus tôt. Bref. Donc, revenons sur les histoires de réalité vraie. effectivement, et donc il y a une notion, la notion c'est la réalité qui, on va dire, qui fait autorité, donc au sens, c'est celle-là qu'on écoute, on essaie de se caler sur celle-là, et donc une notion d'arbitrage. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on met dans cette réalité, quels sont les changements qui ont lieu, et quand il y a deux changements qui sont un peu contradictoires, comment on arbitre. Et donc là, il y a deux grosses familles de netcode. Donc je donnerai des exemples un petit peu. Il y a le premier qui est une façon assez simple de... Enfin, assez simple, disons. Qui est la façon peut-être la plus triviale, c'est de faire un arbitrage, on va dire, fort. Donc, je ne sais pas comment... la caricature du nazi, quoi. C'est... il y a une personne qui décide... Le serveur va recueillir les inputs ou les actions de tous les clients, et ça peut être la règle du premier arrivé premier servi, ça peut être d'autres règles. Ces inputs vont être appliqués. Alors ils peuvent être, ça peut être des historiques, ça peut être, c'est-à-dire que le serveur quand il reçoit, il peut aussi recevoir les inputs des gens dans le passé, mais et du coup les appliquer lui dans sa réalité, en fait que la réalité autoritaire soit dans le passé par rapport à la date en cours. Comme ça, on a le temps de recevoir les inputs avant de les appliquer, mais pas trop dans le passé, sinon tout le monde a l'impression de laguer.
C'est complexe.
J'ai l'impression d'avoir un peu...
Je suis perdu dans la matrice.
Tu regardes les films où il y a des remontées dans le temps et tu ne comprends plus rien.
Ouais, on peut passer sur ce détail-là. Mais mettons, voilà, donc il y a le serveur qui va recevoir les inputs des gens, faire son arbitrage sur la règle du, mettons, premier arrivé, premier servi, puisqu'en général, c'est ça, c'est, voilà. Et donc, ensuite, modifier sa réalité et envoyer au client, comme on a dit, ça y est, maintenant, c'est ça qui se passe. Là, c'est, en fait, c'est, ça va peut-être parler à certains d'entre vous qui écoutez ou autour de cette table, c'est ce que moi j'appelle, c'est la façon de faire qui donne un avantage défenseur. Alors, je vais expliquer pourquoi. En gros, imaginons le cas classique de type Counter-Strike où il y a une personne qui est cachée derrière une caisse ou un mur et qui veut jeter des petits coups d'œil furtifs en faisant droite-gauche, un petit décalage. Et de l'autre côté, il y a un autre joueur qui est un sniper qui est à l'autre bout de la map et qui regarde cette caisse en disant « Ah, dès qu'il sort, je l'allume. » Parce qu'il sait qu'il est là. Et donc, dans ce type de fonctionnement-là, la personne qui commence à faire son petit droite-gauche, elle appuie à droite. Le sniper, lui, n'a pas encore reçu cette information. Mais par contre, vu qu'il n'est pas en train de bouger, le sniper, la personne qui a commencé à sortir sa tête de la caisse, donc mettons le joueur défenseur, il va voir le sniper, il peut appuyer sur gauche, il se remet derrière la caisse. Et s'il fait ça rapidement, le sniper n'a rien vu. Au moment où le sniper reçoit les informations qui disent « Ah là, il y a un joueur qui a commencé à se décaler vers la droite », même si sa prédiction locale, du coup, fait faire un petit bond en avant au mec derrière la caisse, potentiellement, la personne est déjà revenue derrière la caisse, y compris pour le serveur. Et donc, au moment où il va tirer, si ça se trouve sur son écran, il a la souris en plein milieu de la tête du défenseur, et il tire à ce moment-là, mais pour le serveur, cet input arrive trop tard. C'est-à-dire que quand l'input arrive au serveur, le serveur analyse, il dit le joueur il est déjà derrière la caisse, ton tir a raté. Et donc, c'est frustrant pour les attaquants. Et donc, c'est pour ça que c'est avantage défenseur. Donc ça, c'est la
grosse... Il y a des exemples de jeux qui utilisent
Je crois que Quake et Doom utilisaient ça. Mais il faudrait que j'aille vérifier dans le code source parce que j'ai pas trouvé l'info comme ça. Et donc c'est un peu compliqué. Et donc
je ne me choquerais pas que Quake utilise ça.
Mais
parce
oui, c'est
que,
ça. Et je crois que c'est une grosse différence de feeling entre Quake et Counter.
T'avais le côté, tu tirais et il était là. mais c'est passé à travers quoi. Tu vois le rayon passer à travers le
ouais voilà
le
c'est joueur, ça fais, ah. Si en plus t'as un mauvais SPS tu le vois d'autant plus ouais. Parce que t'as le temps de voir la frame pendant lequel ton tir est passé à travers le joueur et tu t'attends la frame d'après de dire ah t'as plus un t'as le petit bruit qui te dit t'as touché et en fait tu l'as pas et donc oui il me semble que Quake fonctionne, Quake 3 Arena en particulier fonctionne sur ce modèle.
Du coup, ça explique pourquoi moi, quand je joue à Quake, j'ai beaucoup de difficultés à viser les ennemis parce qu'en fait, voilà, je suis sûr que c'est à cause de ces algos.
Voilà.
La connexion n'était pas, n'était
ouais,
pas
voilà,
bonne.
Il y avait
et
du lag,
le serveur n'était pas d'accord avec toi.
Moi, je vise, mais.
Et donc, deuxième façon de faire tout cet arbitrage, c'est donc ce qu'on va dire avantage attaquant. C'est un arbitrage, on va dire, un peu plus confiant, un peu plus peut-être un peu plus naïf vis-à-vis de ce qui se passe sur les clients, qui fait un peu plus confiance. Et donc là. J'appelle ça avantage attaquant parce que c'est l'inverse. C'est-à-dire que le serveur va faire confiance à certaines informations qui lui viennent des clients. Par exemple, si un client dit bah, « moi j'ai tiré sur telle personne parce que dans ma réalité locale à moi, bah, j'ai tiré sur cette personne avec toutes les infos que j'avais, je voyais la personne, j'avais ma souris dessus, j'ai cliqué sur la gâchette, c'est censé avoir tiré ». Eh bien, le serveur va dire « Ok, on met ça dans la réalité vraie et on envoie ça à tout le monde. » Et donc, c'est effectivement ce qui se passe plus sur Counter-Strike. Mais, et donc là, si on reprend le scénario tout à l'heure d'une personne qui se décale, la personne se décale, elle fait son petit droit de gauche, elle revient derrière le mur. À ce moment-là, l'attaquant le voit sortir du mur, tire dessus, et donc la personne... potentiellement est revenue derrière sa caisse, enfin oui, derrière sa... l'exemple c'était derrière une caisse, elle est revenue derrière sa caisse, elle pense être en sécurité totale, et quelques millisecondes pourtant après, sur son écran, elle est derrière la caisse, elle est intouchable, et à ce moment-là, pouf, elle prend une balle. Et ça, c'est counter, effectivement. Et
c'est presque plus compréhensible quand même pour un joueur, de, plutôt qu'avoir la tête dans le viseur, tirer, ça tue pas, avoir cette notion de « oui, ok, je sais que... » Je suis sorti deux secondes et j'avais un risque et tant pis, j'ai pris une réponse.
Ouais. C'est un peu moins visible, je pense,
ouais.
En plus.
Mais c'est pas le même type de frustration et c'est un choix. Mais clairement, les contraintes du moteur réseau font qu'on ne peut pas satisfaire les deux. C'est-à-dire que soit ça sera frustrant pour les attaquants, soit ça sera frustrant pour les défenseurs.
Ça, ouais. Je trouve que ça valorise le fait qu'il se passe quelque chose dans le jeu. Quoi. Contrairement à l'autre où, bon, je suis sorti, je suis rentré, j'ai tiré... Bon, bah, match nul, on reprend à
ouais,
zéro.
Écoute, tu lui enlevais la moitié de sa vie dans ce cas-là.
Non, mais je l'enlève.
Mais il y a quand même quelques inconvénients. C'est-à-dire que si tu as une disparité entre deux lags, en fait, dans le cas de l'avantage attaquant, bah, c'est celui qui lag le plus qui est avantagé. Parce que, imaginons, là, le sniper a un gros lag, il va dire au serveur, bah, moi, dans ma réalité, là, moi, je l'ai vu sortir. Je l'ai vu même sortir beaucoup parce que j'ai pas mal de lag et du coup, ma prédiction locale, elle a dit qu'il sortait vraiment derrière la caisse, pas juste un petit coup d'œil, mais il était carrément sorti. Et si le serveur fait confiance, ben il va dire « Ok, tu me dis ça, je vois que ça correspond à tes données de lag, donc le mec, ouais, je comprends, toi, tu lui as tiré dessus. » Mais l'inverse, c'est pas vrai. C'est-à-dire que, tu vois, dans
le mec
n'est
même pas allé aussi loin que
ouais,
là
c'est
où
ça.
Il a tiré. Quoi. C'est...
Et d'ailleurs, c'était un problème, et donc là, il y a tout un tas de trucs à dire. C'est effectivement, c'est bien, mais il y a des gros problèmes à faire confiance aux clients.
Ça reste, j'imagine, du coup, tu gardes une notion un peu d'arbitrage en se disant, bon, si celui qui a lagué, enfin l'attaquant, comme tu l'appelles, il était quand même pas trop loin, peut-être à la base, il a vraiment tiré là où il était un moment, etc.
Ouais.
Je vais peut-être plus lui faire confiance que...
Ben ouais,
il a tiré juste à cause de sa prédiction qui l'emmenait trop loin.
Mais dans ce cas-là, comment tu fais pour empêcher les gens de dire bah, « moi j'ai une très bonne connexion, mais en vrai, je vais hacker mon jeu pour qu'il envoie au serveur des infos comme quoi en fait ma connexion n'est pas si bonne. Donc j'aurai les infos en avant, enfin avec des bons timings, mais par contre je vais déclarer que ah, j'ai 130, 150, 200 millisecondes de lag. Si c'est dans la fourchette qui est acceptée par le serveur, ça va me permettre d'envoyer au serveur des infos un peu bidons, mais voilà. Et ça, c'est un cheat qui a existé hein, sur des faux trucs qui, même sans aller jusqu'à pirater l'exe, juste s'ajouter du lag, il y a certains jeux où c'était un avantage. Et donc, tu juste t'installais un driver Windows particulier qui, juste, tous les paquets que tu recevais, bah, les mettait dans une file d'attente et puis hop, te les donner un peu plus tard, tu vois, genre juste ajouter du lag, et t'avais des meilleurs, tu vois.
Je suis mort de rire parce que je croyais que t'allais dire il suffit d'installer un driver Windows et du coup t'as du lag dans n'importe quel driver Windows.
Non.
C'est un peu agressif.
C'était un truc particulier, un faux driver réseau, enfin tu vois, ou des trucs comme ça, ou même je me demande s'il y a pas des moments où ça se faisait en matériel. Tu vois, genre un truc que tu branchais, un boîtier, tu branchais entre ton câble et ton machin, et juste le truc qui servait à ralentir ta connexion, quoi. Et donc c'est un des gros problèmes, c'est que quand tu commences à faire confiance aux clients vis-à-vis de ce qu'ils ont chez eux, effectivement c'est moins frustrant dans certaines situations, parce que bon, te faire tuer quand t'es revenu depuis la caisse et puis quand t'es revenu depuis longtemps parce que le mec en face il a du lag, c'est frustrant aussi. Mais là on voit qu'il y a toute une catégorie de problèmes, et je sais pas si vous avez joué beaucoup à Counter-Strike 1.6 sur les serveurs qui étaient pas trop surveillés en termes de cheat, mais les serveurs de Counter-Strike, peut-être 1.6 c'était déjà un peu réglé, mais 1.4 ou des trucs comme
1.4,
ça,
1.4 c'était compliqué. Hein.
Il y avait genre zéro vérification sur le serveur. Donc si quelqu'un disait bah, moi j'ai touché lui en pleine tête, le serveur disait ok.
De n'importe où de la map, quoi.
De n'importe où de la map. Oui. Il y avait quelques contraintes. Il fallait que la partie ait commencé, genre. Mais c'est à peu près tout. Tu vois. Et
waouh.
C'est de la validation.
Mais, et donc tu commençais ta partie et puis t'avais quelqu'un qui faisait 6 headshots en une demi seconde. Alors que tu le voyais pas, tu vois, et boum boum boum, il tuait tout le monde. Et donc voilà, c'est et là évidemment c'est risible parce que tu te dis bah oui, mais c'est évident, ça peut être détecté et tout. Et on peut imaginer plein de tests, par exemple se dire attends, mais il tirait même plus vite que la cadence de l'arme, donc déjà le deuxième truc aurait pas dû passer. Mais donc tu peux rajouter un petit test comme ça. Puis tu peux faire des tests un peu plus sur la visibilité, est-ce qu'il est censé les voir ou pas. Et donc ça, c'est sur le serveur, évidemment, bah ça demande des capacités, mais voilà, c'est le genre de truc où tu vas faire tout un tas de tests. Est-ce que c'est crédible, en gros, est-ce que l'information qui m'est donnée par les clients est crédible ou est-ce qu'elle a aucune chance. Mais même avec tous ces trucs-là, bah on peut revenir sur le problème de s'arranger pour faire des trucs à peu près crédibles. Ah, oh, j'ai un peu lagué à ce moment-là. Ah, oh, j'étais pas tout à fait machin.
On dirait un peu quelqu'un qui essaye de frauder le fisc. C'est ce genre, non, mais j'ai pas de château. Non, mais ouais, bon, j'ai une petite maison, mais elle est pas si chère. Tu sais.
Ouais, mais c'est ça. C'est le, et donc, le, c'est un des. Enfin, c'est un problème, par exemple, qui, je pense qu'il n'y avait pas de possibilité de faire sous Quake. Il faudrait vérifier. Je m'avance peut-être un peu. Mais en tout cas, sur les jeux qui ont un arbitrage fort, et je. Alors, je peux me planter, mais je pense que c'est par exemple le cas des MOBA. C'est-à-dire que dans un MOBA, ça va plutôt être avantage défenseur. C'est-à-dire que si t'as évité un truc et que le mec en face il lag, ça, c'est, t'as évité ton truc et puis voilà, t'es caché. Tu sais, tous les persos qui ont des trucs genre qui les rendent invincibles ou un truc comme ça pendant un certain temps, bah, si tu l'as mis, tu l'as mis et jamais tu vas le mettre et après mourir. Parce que en fait, sur le serveur, il n'avait pas reçu le fait que tu l'avais mis, quoi. Donc voilà, il faudrait vérifier. Là, pour le coup, il y a pas énormément. Enfin, il y a quelques trucs sur le code de.
J'arrive pas à me rappeler de moments où ça pourrait. Enfin, on a quand même pas mal joué à ça pendant un temps. Donc peut-être, ouais. Peut-être vous encore. Ouais, c'était plus le cas. Ouais. Mais j'ai pas d'exemple. Autant sur Quake ou Counter, je l'ai quand même. Enfin, c'est des trucs que tu voyais souvent. Mais après, c'est vrai que les MOBA, comme c'est quand même plus récent. Il y a quand même des meilleures, je pense, des meilleures connexions un peu pour tout le monde. T'as peut-être un peu moins.
Et puis c'est plus smooth aussi, je pense. Ouais. Il y a moins de trucs super. Quasiment tous les. Enfin, même les tirs qui sont des skill shots, c'est des projectiles, ils ont une vitesse de déplacement. Et donc là, ben, on revient sur de la prédiction où dès que le truc est tiré, t'envoies, il est tiré dans telle direction. Et comme ça, les personnes avant, jamais le truc il va se décaler. Ou se, tu vois, une fois que t'as reçu que le projectile était parti, ben, tu sais où il est parti et tu peux prédire toute sa trajectoire. Ouais. Donc il y a plein de trucs.
Carrément. Mais du coup, alors, tu dis on peut rajouter plein de vérifications sur de la crédibilité, mais faut, enfin, j'imagine que ça prend du temps à vérifier ça en temps réel, quoi.
Ouais, et en fait, c'est même quasiment, enfin, c'est pas toujours possible, mais oui, le serveur peut vérifier. Alors, c'est d'autant plus vrai sur les jeux où la physique est prédictible, où la physique est en tout cas bien découpée, potentiellement de l'affichage, ainsi de suite. Et donc, le serveur peut peut-être faire exactement ce que fait le client. Mais on peut imaginer, mais parfois, c'est pas évident. Et on pourrait imaginer qu'effectivement, le serveur ait besoin d'une carte graphique par joueur pour tracer exactement ce qu'il voyait à l'écran, dans les conditions dans lesquelles il voyait, pour savoir si, est-ce que le joueur, machin. Mais du coup, là, on se dit, la personne qui veut héberger un serveur, elle est obligée d'avoir 4 cartes graphiques, ou en tout cas 4 fois la puissance graphique de ce qu'ont les joueurs, sachant qu'ils peuvent avoir des résolutions de ouf et tout, enfin, ça n'a pas de sens. Ça peut avoir du sens, peut-être, sur console, un truc comme ça, mais bref, c'est compliqué, ça demande beaucoup de bidouilles. Enfin, disons, c'est un peu un chat et à la souris. C'est comme souvent avec la triche ou le piratage ou ce genre de choses, ça va être ah ben il faut trouver les petits trucs qui empêchent les gens que ça se voit trop. Après, c'est vrai que l'anti-cheat, le but c'est que ça se voit pas. C'est-à-dire que si personne ne sait qu'il y a un cheater sur une partie, tout le monde se dit juste oh ben lui il est vachement fort, ben c'est acceptable en fait. La mission est remplie en termes d'anti-cheat. C'est très dur à entendre en tant que joueur, je peux vous garantir que tous les gens qui travaillent sur l'anti-cheat, c'est leur barrière. C'est-à-dire qu'au-delà, tu cherches pas à aller plus loin, quoi. S'il y a quelqu'un qui triche, mais que personne le sait, que tout le monde se dit bah il triche comme s'il était un joueur très bon. De toute façon, en fait, en vrai, en tant que programmeur, tu peux pas faire grand-chose. Tu sais pas si derrière le clavier, c'est quelqu'un de très bon ou quelqu'un qui a mis un truc sur sa souris.
Il y a un paradigme un peu similaire dans le mobile. C'est que dans le mobile, il y a beaucoup de jeux PVP, mais c'est pas des vrais adversaires. C'est que des bots. Mais on le dit à personne, en fait. Personne, enfin, les gens, sans doute, peut-être, mais...
Ceux qui réfléchissent, quoi, mais la plupart des gens...
Oui, mais au final, l'expérience de jeu, t'as l'impression de jouer contre des gens. Certains qui ont l'air forts, d'autres moins. T'as l'impression d'être meilleur que certaines personnes, de devenir de plus en plus fort. Ça te suffit, en fait. Ton expérience, elle est entière. T'avais toutes les informations que tu voulais.
Et puis, t'attends pas quand tu défies quelqu'un. T'as pas de matchmaking.
C'est le moment où tu joues dans le métro, tu dois te poser des questions normalement. Ça va hyper vite, dis donc, dans le métro. C'est bien codé. Non, mais voilà, c'est le même truc.
C'est sacré net code.
Au final, si l'expérience des gens est la bonne, c'est compliqué de faire quoi que ce soit, quoi.
Ça revient de toute façon un peu à ce qu'on dit à chaque épisode. C'est du moment que tu fais un truc crédible, comme pour les graphismes, comme pour la physique, comme pour tout. Du moins que c'est cool à jouer, que ça ressemble à quelque chose.
Bah, sauf s'il y a de l'argent à la clé, quoi.
Ouais, c'est toujours pareil. C'est ça. C'est que ça trouve ses limites pour le jeu compétitif, quoi. Et le jeu compétitif en LAN, c'est une chose, parce que souvent, tu peux avoir des arbitres, des vérifications et ce genre de trucs. Donc, effectivement, Counter-Strike, tous les trucs sérieux, ça consistait en LAN. Mais des compètes sur 1.4, des compètes online... Je pense que la plupart des gens faisaient pas confiance, quoi. Ça pouvait juste pour rigoler, quoi. Mais personne n'aurait mis de cash prize. Bon, à l'époque, de toute façon, il n'y avait pas beaucoup. C'était pas trop de l'élire, mais personne n'aurait mis de cash prize sur des compètes Counter-Strike 1.4 en online, quoi. Parce que ça n'avait pas vraiment de sens, étant donné l'état du jeu, quoi.
Maintenant, ils ont poussé le vice. Enfin, je sais pas si c'est la seule solution, mais c'est de faire vérifier des replays par des gens externes qui vont checker des replays et dire bah, là, ça se sent un peu mauvais ce move-là, quoi. Genre là, il pouvait pas savoir que le personnage était là. Là, il a cliqué, mais il a pas vraiment cliqué. Là, on voit son arme qui vise automatiquement un adversaire. C'est pas normal. Un adversaire qui est derrière un mur, ça n'a pas de sens. Ouais. Et au final, je me demande si c'est pas. Il faudrait presque un réseau neuronal.
Ouais, ça fait un peu
entraîner.
Alors,
Après,
faut que ça soit assez robuste, quoi. Parce que si du coup, des gens qui jouent de manière legit, tu leur dis non, ce que t'as fait, t'as triché, c'était pas vrai. La frustration, elle doit être assez violente aussi pour le joueur qui n'a pas triché, quoi.
En vrai, l'anti-cheat sur ce genre de truc, je pense qu'il y a pas mal de trucs qui sont faits, mais c'est surtout sur les variations. C'est-à-dire, en gros, tu arrives à détecter si quelqu'un change de niveau du tout au tout assez régulièrement. Enfin, voilà, deux modes de fonctionnement. Un mode où il est plutôt normal, machin, et puis un mode où il devient God Tier, enfin, l'équivalent des 15 premiers mondiaux. Ça se détecte plus que... c'est plus facile à savoir que le mec, il avait sa souris sur la tête. Ouais, mais ça se trouve, un joueur pro, en fait, il aurait mis la souris proche du mur parce qu'il se dit, il a analysé tous les chemins, toutes les probabilités de passage dans la map et il sait que, ouais, là, à ce timing-là, il y a probablement quelqu'un qui va sortir à ce moment-là, quoi.
Le problème, c'est quand t'es top mondial et que tu cheats, et là, c'est difficile de faire la différence. Je sais qu'il y a eu pas mal de cas justement de top mondiaux où qui avait un logiciel de cheat et qui l'activait de temps en temps.
Ouais.
Du coup, c'est hyper difficile.
Sur Quake 3, t'avais un mec qui faisait des LAN et il avait été interdit en LAN pendant un moment. et en fait, dès que tu le croisais sur le net, il défonçait tout le monde. Mais en même temps, en LAN, il était fort. Et du coup, genre les gens, ils ne savaient pas s'il trichait sur le net et en LAN, il arrivait à tricher des fois ou juste il était bon et il trichait jamais ou alors il trichait un petit peu. Enfin, c'était trop bizarre, quoi. En plus, à l'époque, Quake 3, il y avait quand même une communauté un peu plus âgée que sur Counter-Strike. Et lui, genre, il avait 14 ans, alors que les autres joueurs qui jouaient, ils en avaient 25. Donc, il y avait un petit soupçon de non, mais c'est un gamin, il doit tricher.
Ouais, mais ça, c'est jamais évident, hein, parce qu'il y a des gens à 14 ans, ils sont très forts.
Oui, effectivement. Enfin, le problème, c'est que c'est dès qu'il y a de l'affrontement et dès qu'il y a une notion de compétition et de victoire, que ça devient un peu important. Avec une transition, du coup, on va passer à la pause musicale en écoutant Why Do We Fight de Neil Akri sur la BO de World of Warcraft Mist of Pandaria. C'était donc Why Do We Fight de Neil Akri sur la BO de World of Warcraft Mists of Pandaria. Et avant de reprendre, on va faire une auto-promo pour Radio Kawa. Donc là, on arrive sur les fins de saison. Tout le monde va un petit peu se calmer et partir en vacances. Cependant, il y a une nouvelle émission dont vous avez peut-être entendu parler. Un vendredi sur deux en live qui s'appelle Nawak, qui regroupe des gens de tout le réseau Radio Kawa qui viennent. C'est une émission avec pas vraiment de thème. Chacun vient, fait sa petite chronique ou non. Il y a des quiz, il y a un classement par saison quand même. Et l'idée, c'est de se retrouver tous ensemble autour de toutes les émissions Radio Kawa et de découvrir un peu les différents animateurs.
Et c'est très drôle.
Et c'est très drôle. Tu dis ça parce que j'étais dans le premier épisode, peut-être.
Peut-être.
Voilà, donc on vous invite à écouter Nawak. Donc c'est un vendredi soir sur deux à 19h, si je dis pas de bêtises. 20h. Je pense que sinon X va m'engueuler.
Et surtout, vous pouvez aussi accéder au Discord de Radio Kawa et pour pouvoir échanger en live pendant l'émission, c'est assez rigolo à suivre.
D'ailleurs, vous pouvez venir discuter de The Game Maker sur le Discord de Radio Kawa à tout moment, faut pas hésiter. On y est dessus, voilà. On va pouvoir reprendre le dossier. Gugli, c'est à toi.
Alors, je vais reprendre effectivement. On avait déjà abordé ce qui se passe plutôt du côté des clients, du côté des joueurs, ce qui se passe du côté du serveur. Et maintenant, donc, ça va être un peu une partie fourre-tout sur les 1 milliard de problèmes connexes qui sont une question qu'on peut se poser vis-à-vis de tout ce dont on a dit. Alors déjà, si vous avez compris les deux premières parties, vous avez déjà un bon bagage pour comprendre ce qui se passe dans les enjeux, on va dire, de la création de netcode. Et donc là, je vais aller voir des points plus précis, plus en détail, plus des approches pragmatiques, on va dire. Et par exemple, une des questions que je n'ai pas du tout abordées dans le début, c'est comment est-ce qu'on transfère une réalité d'une machine à une autre. Parce que là, bon, je disais, oui, on envoie des paquets, machin, mais en vrai, la réalité d'un jeu, ça peut prendre beaucoup de place, ça peut être plusieurs kilos, plusieurs mégas, et on va l'envoyer très souvent. C'est-à-dire que c'est le fameux tick rate dont tu parlais, si on dit, alors je sais pas quelles sont les unités, mais si on compte en millisecondes, si tu mets un tick rate de 10 millisecondes, ça veut dire que 100 fois par seconde, il faut envoyer la réalité. Idéalement, toute la réalité. Donc, s'il y a beaucoup de choses à envoyer, pour l'instant, on n'a pas trop abordé les problèmes de bande passante. Parce qu'en vrai, les problèmes de bande passante, c'est un peu comme des problèmes de CPU ou quoi. Ça se résout par de l'optimisation. Mais en vrai, c'est un problème qui se pose quand même beaucoup. Donc, pour savoir comment on transfère une réalité d'un endroit à un autre, il faut savoir ce qu'on accepte de ne pas transférer, en fait. Parce que de toute façon, il faut qu'on fasse des choix. Quand on a, les tick rates en général c'est plutôt 20 ou 30 millisecondes, donc 50 fois par seconde ou 30 fois par seconde, on veut envoyer le plus d'infos possible. Est-ce qu'on accepte d'envoyer pas tout ou alors pas tout le temps ou, il y a l'idée de dire on va envoyer surtout ce qui est proche du joueur à chaque joueur, mais du coup c'est très coûteux parce qu'il faut calculer pour tous les joueurs qu'est-ce qui est proche d'eux, ou alors envoyer juste un petit peu au pif, mais diluer tout ce qu'on a envoyé, le premier tick on va envoyer un tiers, puis le deuxième tiers, et puis le troisième tiers, ainsi de suite. Donc il y a plein de trucs à...
Ça me fait penser, c'était un des soucis, il me semble, qu'il y avait sur Waylands. Alors c'était pas vraiment parti, donc c'est plus de ce que j'ai entendu dire, mais... on va avoir justement une personne qui est host, donc du coup c'est le master, et du coup avec trois autres joueurs, parce que le jeu se fait en coop à quatre. Et du coup, en fait, plein de choses étaient calculées justement sur le master, mais en fait, il y avait des gros soucis qui se passaient si un des joueurs était à l'autre bout de la map et le master était à l'autre bout. Et du coup, ça veut dire que tout ce que le master en fait va regarder tout autour, il va pas forcément. Ça va pas être bien calculé parce qu'il va pas prendre en compte, il va dire, dans un rayon d'un kilomètre, je calcule tout, sauf que si les autres joueurs sont à 2 km, ça va tomber en fait dans ce trou-là. Okay. Donc, alors je sais pas comment ils ont réglé ces problèmes-là. Enfin, il a sûrement dû trouver des solutions, mais voilà, j'ai entendu dire qu'il y avait plein de soucis comme ça.
Ouais, c'est un des problèmes effectivement, c'est que là pour le coup tous ces problèmes-là c'est des compromis. Il y a un peu le même genre de problème avec de la compression. Donc on peut appliquer de la compression genre zip, comme la même que pour les fichiers zip ou tout un tas de. Il y a des trucs qui sont moins coûteux mais qui compressent moins bien. Quand vous faites une archive zip, on peut régler le taux de compression, ainsi de suite. Ce genre de truc, c'est utilisé aussi en réseau pour dire on envoie, et si on a beaucoup de bande passante, on peut compresser moins, et du coup ça prend moins de CPU, mais sinon on compresse plus, mais du coup il faut des meilleures machines. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de CPU, on est plutôt gâté. C'est-à-dire que les jeux multijoueurs qu'on a, bah, ils peuvent aller assez loin dans la compression, donc on se retrouve à être assez libre et à envoyer pas mal de trucs. En vrai, les bandes passantes ont aussi augmenté, donc envoyer plusieurs, on va dire, kilooctets par seconde d'informations pour le jeu, bah, c'est tout à fait gérable et ça pose même pas de soucis. Alors oui, quand il y a des gens qui peuvent se dire, mais plusieurs kilooctets, mais ma connexion elle gère beaucoup plus que plusieurs kilooctets. Oui, mais si c'est sur une partie avec 10 joueurs comme beaucoup de MOBA, bah, si on envoie déjà, mettons, 100 kilooctets par personne, bah, ça fait que le serveur, il doit envoyer 1 mégaoctet et ça va vite. Et donc, pour je ne vous parle même pas des MMO. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a ce côté-là, c'est que malgré le fait qu'on ait des bonnes connexions, enfin aujourd'hui en plus, avec la fibre, il y a des gens qui ont des connexions qui sont à peu près aussi bonnes que ce qui se fait dans les data centers pour des prix raisonnables, quoi. C'est voilà, la bande passante, c'est plus si c'est ça paraît illimité côté client, mais en fait côté serveur, voilà. Et donc de manière générale, là on a abordé à la fois les problèmes de envoyer pas toute l'information et puis l'information qu'on envoie, on peut la compresser. Tout ça, de manière générale, c'est des compromis entre processeur et bande passante. C'est-à-dire que les deux, c'est bon, ben voilà. Un peu comme on peut. Les deux augmentent petit à petit avec le temps, donc c'est cool. Mais voilà.
Processeur côté client ou côté serveur ?
Les deux. Si tu compresses d'un côté, tu décompresses de l'autre. Et voilà quoi. Donc c'est les deux. Souvent, côté client, c'est pas trop un problème. Parce qu'en fait, comme pour la bande passante, là, pour le coup, le serveur, il mange beaucoup plus. Il en prend beaucoup plus à faire que le client. Le client, il doit décompresser juste une fois ce qui lui arrive. Voilà. Enfin. Bon, après, ça dépend. Si tu fais un jeu à 4 joueurs, ça va, c'est gérable, quoi. Mais dès que tu veux commencer à être 10 joueurs, des trucs comme ça, ça commence à se...
Genre les Battle Royale,
ouais, voilà.
T'es 100 maintenant dessus,
c'est
bon,
ça. C'est que c'est... Bah, les Battle Royale, ils émergent pas mal aujourd'hui, je pense, parce que bah, l'augmentation des CPU et des bandes passantes permettent de faire ça de manière assez drastique, avec de la compression un peu costaud et tout. Et encore, visiblement... je suis pas sûr qu'à l'heure actuelle il y ait un seul Battle Royale qui supporte si les 100 personnes sont au même endroit. Je crois qu'il y a des gens qui s'amusent à faire crasher je sais plus quel Battle Royale.
Si c'est ouais. Crasher, c'est probablement PUBG, mais...
Ouais, je sais pas, je sais plus. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, c'est que c'est... Ils ont des moyens de gérer ça, et dans les espèces de lobbies qu'il y a au début, bah, du coup, c'est un peu ça, mais en même temps, il y a probablement pas tous les systèmes qui sont activés à ce moment-là, quoi. Et visiblement, Fortnite, ils sont bons quand même. Techniquement... c'est balèze. C'est plutôt balèze, voilà. Et donc, autre petit détail intéressant sur la prédiction. On en parlait, et à un moment où tu as parlé de réseaux de neurones et de trucs comme ça, d'IA et tout. Et en fait, c'est un truc sur lequel la prédiction, je crois, je sais pas si ça s'est fait déjà beaucoup ou pas. J'ai pas d'exemple, mais bon. En tout cas, on peut imaginer que améliorer la prédiction, on a jusqu'alors, il y avait toujours l'impression de se dire ben, la limite, c'est le moment où le joueur prend une décision et on ne peut pas prédire avant ça. Et en fait, quand on voit aujourd'hui ce que sont capables de faire les recommandations Amazon ou Google, ça ne m'étonnerait pas que dans quelques temps, on soit capable, surtout que c'est très facile d'amasser énormément de données là-dessus, hein, parce que c'est déjà des données qu'on a. Comme avec toutes ces données, je pense que le machine learning, tout ce qui est... les IA actuelles, quoi, les recherches sur l'IA actuelles, ben je pense qu'on peut faire de la prédiction. À mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelques-uns qui tentent dans les prochaines années de faire des trucs comme ça, parce que du coup, ça veut dire que tu es capable de prédire avant que la personne l'ait fait ce qu'elle va faire, pour des déplacements, par exemple. C'est-à-dire que si une personne, tu vois, dans Counter-Strike, tu sais qu'elle va du start au point A, tu es à peu près capable de savoir au moment où elle va tourner, au moment où il va se passer ce qui va se passer. Surtout, on peut imaginer même que ça soit customisé. C'est-à-dire que dans les infos de prédiction que le serveur envoie au client, ils disent bah, « lui, d'habitude, il passe par là. Voilà, il de telle façon, ou ainsi de suite, avec telle vitesse angulaire. » Et du coup, bah, la personne, tu es capable de beaucoup mieux prédire ce qu'elle fait, et ça ne veut pas dire peut-être qu'elle peut te surprendre, ainsi de suite. Et il faudrait se méfier, parce que ça pourrait être là aussi cheatable. C'est-à-dire que tu fais croire à l'ordi, tu lui apprends « ah, moi, je joue tout le temps de cette façon », et puis en compète, tu joues d'une façon complètement différente. Et du coup, la prédiction de local de tous les autres est par à l'ouest. Bref. Ça, c'est un peu de la spéculation. C'est noté, même complètement de la spéculation.
On prend rendez-vous pour l'E3 2023 pour voir si tu avais raison.
Ouais, ça serait pas complètement étonnant. En tout cas, voilà, il y a des trucs pour la prédiction. Donc, outre tous les algorithmes de base qui consistent à voilà, extrapoler des points en partie de la dérivée dont on parlait tout à l'heure, qui marchent déjà genre, vraiment bien. Mais voilà, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des trucs comme ça et déjà peut-être en cours sur certains trucs. Ça n'a pas besoin d'être super fiable. C'est pas comme conduire une voiture une voiture automatique. Donc ça m'étonnerait pas. Un autre problème plutôt costaud dont j'ai pas trop parlé, c'est comment on fusionne des réalités. C'est-à-dire que potentiellement j'ai parlé de l'arbitrage, donc ça c'est côté serveur, mais il y a tout un tas d'algorithmes un peu rigolos pour un petit peu technique pour comment on intègre l'information que nous envoie le serveur à notre réalité par rapport à ce qu'on avait prédit. Est-ce qu'en fait on discarde complètement ce qu'on avait prédit ou est-ce qu'on fait une transition smooth entre ce qu'on avait prédit et ce que le serveur vient de nous envoyer qui nous donne une information contradictoire pour éviter justement les téléportations ou ce genre de choses
pour faire un truc plus crédible mais avec des positions qui sont pas les vraies quoi.
En vrai, des réalités sur le client, il y en a beaucoup. Enfin, je ne sais pas comment tous les autres jeux fonctionnent, mais c'est souvent un historique de réalité avec certaines qui sont flaguées comme étant autoritatives et ainsi de suite. Et donc, tu peux avoir 200 réalités, différentes, enfin 200 états du monde, et sur lesquels tu vas essayer de faire une interpolation entre certains qui viennent de certaines sources, enfin, du serveur, qui sont de la prédiction locale. Peut-être qu'il y a même des jeux qui font du peer-to-peer sur ce genre de trucs pour limiter les problèmes de bande passante. Et donc... avec d'autres systèmes d'interpolation de toutes ces réalités qui viennent de droite à gauche. Donc voilà, il y a d'autres trucs intéressants là-dessus. Je ne vois pas de mots-clés. Autant la prédiction, c'est facile, il y a pas mal de littérature. Autant ce genre de problème, c'est plus compliqué. Et dernier point qui a été soulevé en off par Jade, en fait, c'est tout ce que j'ai pu dire là peut paraître très très compliqué. En vrai... ce qui aide le plus dans le code réseau, c'est d'avoir de bons outils. Et en vrai, c'est probablement un des trucs qui prend le plus de temps à développer. C'est-à-dire que développer du code réseau, en vrai, c'est pas beaucoup de code. C'est pas énorme en termes de code. Ça change pas très souvent parce que, comme je disais au début, les technologies, il n'y a pas de révolution tous les jours de la façon de faire. C'est toujours de l'envoi, de paquets, ainsi de suite. Mais par contre, le temps qui va être passé, c'est du temps à avoir de bons outils. Des outils pour, par exemple, dire « j'ai fait un petit truc qui ajoute du ping. » Parce que quand on est en local dans son studio de dev, il n'y a pas forcément de ping. Donc même si on met deux ordinateurs, on n'aura pas. Donc ça, c'est souvent bien de le faire de manière logicielle, comme ça c'est contrôlé. Mais aussi des outils de replay. Et là, je parle de replay au niveau réseau. Donc de dire « Ok, on va refaire une partie, on va vérifier ce qui est passé à droite à gauche pour être capable de se remettre exactement dans cette situation, d'avoir de l'enregistrement, parfois bas niveau, donc de paquets réseau qui transitent, et comme ça, on est capable de refaire la même chose ou d'apporter un peu les mêmes réponses, ainsi de suite. D'avoir, comme il y a beaucoup de notions, là, ça rejoint un peu sur le réseau et de beaucoup de problématiques de race conditions, donc de... Je ne sais pas comment on dit en français. Bref, de problèmes de paquets qui arrivent dans le désordre ou en même temps, justement, ou pas dans l'ordre auquel on s'attend qu'ils arrivent. Typiquement, il y a plusieurs façons d'envoyer des paquets sur Internet. Il y en a une qui ne garantit pas l'ordre. Ça s'appelle UDP.
UDP, ouais.
Et donc, ça veut dire qu'on peut recevoir du serveur une information de réalité qui est après... qui est postérieure à une information de réalité qu'on recevra après. Bon, donc on les reçoit dans le désordre. Toute cette phrase compliquée pour dire on reçoit les informations pas dans le bon ordre. Mais comme on a vu avant qu'on recevait pas forcément toute la réalité à un moment donné, parce que justement problème de bande passante, on peut envoyer certains bouts de la réalité à certaines personnes ainsi de suite, comment on fait? Et c'est là où on revient sur le problème de comment on fusionne tous ces petits bouts qui arrivent pas dans le bon ordre, il faut revenir dans des réalités d'avant, refaire de la prédiction pour voir à peu près ce que ça donnerait au moment où on a reçu d'autres trucs. Bref, il y a tout un ensemble de petits problèmes comme ça.
Vous, chez Nadeo, alors je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas, vous avez des outils spécifiques développés en interne pour ça ou je ne sais pas, vous utilisez Wireshark ou un truc comme ça?
Alors, Wireshark, pas trop, parce qu'en vrai, pour des trucs temps réel, ce n'est pas super pratique. Okay. Et on a des outils internes. On a un truc qui nous dit dit globalement ce qui a transité sur le réseau à un instant T. Et voilà quoi.
D'accord, donc vous avez redéveloppé tous vos outils spécialement pour vos jeux.
Ouais, ben en fait, c'est souvent plus facile à faire après la décompression. Enfin, ouais, c'est-à-dire que ajouter du ping, ça pourrait se faire au bas niveau. Et après, c'est vrai que pour faire des stats sur est-ce qu'on a envoyé plutôt des informations sur les joueurs ou plutôt des informations sur les tirs ou plutôt des informations sur ce genre de trucs ou les autres, les règles de jeu, les scores ou les trucs comme ça, bah c'est il faut le faire après décompression, donc après avoir on va dire analysé tous les paquets qui arrivent, et donc c'est plus facile d'avoir des données on va dire côté jeu. Mais ouais, mais voilà, comme en fait c'est un problème qui est assez général à beaucoup de devs, je pense que c'est même d'ailleurs à beaucoup d'artisanat de manière générale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à passer du temps sur les outils. Et ouais, voilà, tous les forgerons le diront et ainsi de suite. Alors les forgerons, ils ont un avantage, c'est qu'ils peuvent faire des outils. Bah, on a le même avantage en informatique en vrai, contrairement à beaucoup de...
propres outils, c'est vrai.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est un truc qui est marrant. C'est que entre le point commun entre la forge effectivement et la programmation, c'est que tu as besoin d'un outil, bah tu fais ton outil parce que ton matériel de travail, c'est aussi ce que tu, enfin voilà, ce dont tu te sers pour faire tes outils. Et voilà, bah alors il y aurait aussi beaucoup d'autres trucs à aborder, hein, sur plein de petits composantes rigolos, on va dire, du jeu en réseau. Effectivement, bah on a parlé pas mal d'anti-cheat, mais il y a aussi beaucoup de trucs à faire. Il y a beaucoup de sujets connexes. Il y a le fait qu'on en a parlé aussi un petit peu, il y a des contraintes de gameplay. C'est-à-dire, enfin, on parlait des gameplays de tank tout à l'heure, le fait qu'ils sont mous, ça donne un réseau qui donne l'impression d'être meilleure qualité, ou en tout cas, on verra moins les défauts. Et donc ça, c'est important en fonction de, je pense, quand on définit ce qu'on veut dans un jeu vidéo, c'est pas toujours évident. Peut y avoir pas mal de cas dans lesquels des gens se disent je vais faire ça en solo, et est-ce que ça sera probablement possible en multi? C'est tout le temps possible, hein, mais ça rend pas toujours aussi bien. Et donc en se posant des contraintes un petit peu, en se posant la question, est-ce qu'on veut mieux des projectiles immédiats qui peuvent traverser la map, ou des projectiles un peu plus lents qui ont une balistique mais du coup qui sont plus facilement prédictibles? Et il y a tous ces trucs-là où, effectivement, c'est le côté aussi intéressant de bosser sur le réseau, c'est que souvent, il faut aller voir les game designers pour l'expliquer, des contraintes un peu abstraites. Peut-être que je me servirais de cet épisode, en fait, pour expliquer pourquoi. Ouais, mais alors là, c'est compliqué, parce que voilà, t'as deux réalités qui vont être franchement différentes d'un côté et de l'autre, et du coup, la fusion ne va pas faire plaisir à voir... à l'œil, surtout si elle fait petit bout par petit bout, où t'as la moitié d'un et la moitié de l'autre, quoi.
Ouais, typiquement, j'imagine qu'un jeu musical synchronisé en ligne à plusieurs, ce serait un peu compliqué, quoi.
Faut voir, ça dépend, mais oui, ça peut, effectivement, c'est les jeux qui sont... Non, mais ce que je dis, l'avantage, la musique, elle est prédictible.
Oui.
Tu sais, tu connais la musique, tu vois, il n'y a pas de raison, sauf si c'est ton design de faire changer, effectivement, mais a priori, on va dire, si tu joues à une chanson, voilà, t'as la chanson, tout ça, c'est la même chose chez tout le monde. Tu le synchronises en avance et puis tu le lances et puis il n'y a pas de problème. Par contre, effectivement, savoir ce que font les autres au moment où ils le font, voilà, ça ne sera pas possible. Et s'il y a des trucs très très nerveux, comme on voit les champions de Guitar Hero, et que ce que font les joueurs est en opposition l'un vis-à-vis de l'autre, ce n'est pas juste une jauge de score qui monte, où là tu t'en fous qu'elle ait 80 millisecondes de retard, ou même 40, ça serait effectivement vraiment problématique.
Voilà, du coup, si on avait un concept de jeu musical synchronisé en ligne, de cette contrainte-là découle plein de règles de game design et de gameplay, naturellement, quoi.
C'est ça. Et que, effectivement, des trucs qui peuvent paraître fous et qui seront super sympas, peut-être que s'ils n'ont jamais été faits, c'est parce que... Enfin, en tout cas, beaucoup en multi. Et je pense que c'est parfois à cause de contraintes comme ça qui rendent le... En fait, on tombe vite dans de la qualité bif-bof, quoi, on va dire. C'est-à-dire que quand on commence à... il y a des contraintes qui sont là. Et...
Un peu comme les modes online des versus fighting. En ce moment, on parle pas mal du mode online de Smash Bros Ultimate. Et la plupart des gens qui jouent, ils disent « on sent vachement le lag, on sent vachement le temps des inputs et tout. » Puis on voit l'autre, il a tapé, en fait, on pensait pas qu'il était là, etc. Sauf qu'après, à côté, à Smash, on fait « Ouais, mais en fait, cette attaque, elle commence frame 5. Je sais qu'elle tape pendant 3 frames, etc. » Donc à chaque fois, les gens qui jouent pas mal, c'est ce truc, elle va prendre 27 millisecondes et puis après ça va faire ça. Forcément, s'il y a un peu de ping, c'est absolument impardonnable.
Ouais.
Tu peux pas gérer ces contraintes-là et que ça marche bien avec une connexion qui est pas à moins de 10 ms. Quoi. Donc, ouais.
Et c'est là où, effectivement, j'attends de voir, hein, parce que moi, il y a des aspects sur lesquels, on verra quoi, mais les trucs, le cloud gaming, peuvent peut-être permettre. Moi, autant les trucs qui avaient été montrés dans la présentation de Stadia, où tu voyais le point of view d'un autre joueur et tout, ça permettait d'intégrer ce genre de trucs. C'est rigolo, mais en tout cas, je ne vois pas d'utilisation pour l'instant. Autant le fait d'avoir toutes les machines à une milliseconde, un réseau local les unes des autres, avec une bande passante quasi infinie, et surtout pas la variabilité dont je parlais, qui est le fait que le ping, il varie. Parce qu'en LAN, c'est quand même relativement stable, quoi. Et ça peut peut-être permettre de faire des trucs auxquels j'ai même pas idée moi maintenant, mais des trucs plutôt balèzes en termes de...
T'auras quand même le lag des inputs, quoi. Les inputs, ils viennent du petit client.
Ouais. Mais du coup, y a plein de trucs. Enfin, du coup, t'as plus de problème de cheat, mais voilà. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de pour et de contre qui, pour l'instant, à mon avis, sont encore assez flous. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de devs qui réfléchissent là-dessus aussi. Mais voilà, ça peut être marrant. Peut-être que le jeu multi sur ces plateformes-là aura pas grand-chose à voir avec le jeu multi qu'on connaît à l'heure actuelle, qui n'a pas grand-chose à voir avec le jeu multi qu'il y avait il y a 10 ans ou 20 ans. Quoi.
Très bien. Bah, c'était plutôt très clair tout ça. On va pouvoir enchaîner sur les questions entre nous. On est parti sur des questions peut-être un peu moins techniques et plus sur l'aspect multijoueur des jeux. Parce que tout le monde ne met pas les mains dans le netcode tous les jours et... Et c'est pas si évident. Ceci dit, ma première question, qui est la deuxième sur le conducteur, vous inquiétez pas, c'est quel est le jeu qui vous a obligé à vous intéresser au réseau?
Moi, je pense que c'est Quake 3. Quake 3, t'avais un moyen de t'avais pas vraiment de découverte des serveurs dans le jeu. Enfin, t'avais que des trucs assez basiques. Et du coup, comment ça marchait, c'est tu trouvais, enfin, t'avais l'IP de ton pote ou alors. Tu récupérais ça sur un IRC ou un truc machin, tout le monde se connecte à cette IP, on commence dans 10 minutes, etc. Et je pense que c'est le premier où j'ai eu besoin de faire ça, où j'ai vraiment joué. Quoi.
Moi, j'ai vécu l'époque des jeux où tu mettais le numéro de téléphone, donc là, c'était plus facile. mais en vrai, c'était plus compréhensible. Genre, je me souviens de Alien vs Predator 1, où tu pouvais jouer comme ça en mode téléphone. Et en fait, t'appelais ton pote, il avait son modem, le modem répondait, et en face, tu pouvais jouer à deux. Et en fait, du coup, je pense que, mine de rien, être passé par tous ces trucs un peu low-tech, ça aide à piger après, parce que tu dis, c'est quoi l'adresse IP? Ah ouais, c'est un format de numéro de téléphone spécial Internet, quoi, mais ça fait comme je faisais avant, mais en pas pareil. Et en plus, ouais, c'est pas exclusif, donc c'est vrai que c'est mieux, t'es pas obligé d'être à deux, parce que c'est le jeu, effectivement, où t'appelais ton pote, voilà quoi. Mais c'était pas... à l'époque, on faisait ça parce que ça coûtait moins cher qu'Internet. En vrai, t'avais 30 heures d'Internet par mois. Et si ton pote, il habitait au coin de la rue ou tu vois pas très loin, globalement, ça te coûtait du tarif local. Ça coûtait 10 francs, genre ça devait être 10 francs ou 15 francs de l'heure, tu vois. Donc c'était correct, quoi. Enfin, c'était pas très cher.
Moi, j'ai souvenir, justement, de galérer à essayer de rejoindre des gens. Mais j'arrive pas du tout à me rappeler sur quel jeu. Mais...
Ouais, Jeff Empire au hasard.
Ouais, il y a moyen que ce soit celui-là où j'essayais de jouer, mais c'est pareil, j'étais beaucoup plus jeune du coup, et du coup c'était assez compliqué de comprendre pourquoi on fait tout ça. Du coup, tu suis un peu ce qu'on te guide, mais tu sais jamais trop quel chiffre rentrer, c'était très, très très flou.
Oui, il y a eu toute une période assez ambivalente où à la fois les menus étaient bien décorés, on te prenait bien en main, etc. Et là, t'arrivais sur le moment où on te disait TCP/IP. Mais quoi? Mais de quoi tu me parles?
Déjà, le temps que tu comprennes que c'est ça le jeu en réseau, quoi.
Et c'est ça.
Tu cliques sur t'as genre. Jouer solo, multijoueur local, TCP/IP. Ouais.
Des fois, tu voyais juste solo et multi, tu dis super, je peux pouvoir jouer avec mon pote à côté. Puis en fait, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On me demande des trucs, mais en fait, on n'est pas deux à jouer, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar?
Moi, je me souviens, il y a eu toute l'époque Hamachi. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
Ah, c'est un logiciel
qui permettait de faire fonctionner. En fait, c'est un VPN. En vrai, c'est un VPN.
Ça faisait un réseau local avec
tes
potes.
C'est ça. Un réseau local via Internet. Donc, en vrai, c'était vraiment le fonctionnement d'un VPN. Et ça permettait de jouer à certains jeux en multi à distance, alors que le jeu avait juste été prévu pour du IPX, souvent. Donc, IPX-SPX, qui était le protocole qui était utilisé souvent par les jeux avant le TCP/IP et l'UDP. Et je sais pas, Dungeon Keeper, je me souviens, c'était ça et tout. Mais par contre, c'était pas compatible avec Internet. Et donc, c'était que pour les réseaux locaux. Et donc, en LAN, ça marchait, mais voilà.
Effectivement, je me souviens d'Amachi aussi.
Et puis, il y avait tout un tas. Enfin, je me souviens, sur StarCraft, tu pouvais par exemple pas jouer à deux online sur Battle.net depuis la même IP. Parce que, entre guillemets, les paquets se mélangeaient, quoi. C'est-à-dire que les paquets qui étaient destinés à un des deux qui jouaient, bah, ils arrivaient chez l'autre, et ainsi de suite. Et bref, c'était assez compliqué. Je me souviens de longues nuits avec un pote passé à configurer un routeur fait maison à la base d'une distro Linux pour pouvoir faire ça, et on routait les paquets, on savait à qui router les paquets parce qu'on n'était que deux, donc on pouvait savoir. Enfin bref, c'était assez tricky.
Oui, voilà comment on arrive
à faire du code réseau. Voilà, code. C'est ça. C'est que c'est si vous faites ce genre de truc, peut-être envisager une carrière.
Ouais, je pense que j'ai commencé sur Age of Empires aussi, à mon avis, ou Counter-Strike peut-être, mais peut-être plus Age of Empires qui était un peu plus rudimentaire. Counter-Strike, il commençait à sentir qu'il y avait un truc à faire avec le multi et qu'il fallait s'y mettre, quoi.
Oui.
Question suivante, tout simplement le premier jeu auquel vous avez pu jouer en réseau, qu'il soit local ou pas local d'ailleurs.
Moi je pense à Animal Crossing, où il fallait absolument que t'aies un de tes amis qui est aussi une déesse, comme ça tu pouvais aller dans son village et acheter un truc, et si quelqu'un d'autre a acheté un truc dans ton village, alors du coup ça EP ton monde. Alors je sais pas si ça compte vraiment, mais...
Bah ça compte, oui, ça c'est voilà, un réseau sur ma chaîne portable. Mais...
Voilà, j'ai souvenir de...
C'est pas pire que celui que je vais dire.
T'allais dire quoi ?
Je pense que mon premier, c'est Pokémon sur Game Boy avec le câble Link.
C'est ça.
On pouvait échanger des Pokémon pour les faire évoluer, certains n'évoluaient que quand tu les échangeais. Et si tu retirais le câble au bon moment, des fois les deux l'avaient. Et des fois, si c'était au mauvais moment, il n'y en avait plus aucun qui l'avait. C'était un peu
la roulette russe
du réseau.
Moi, je pense, vas-y.
Ouais, moi, il faudrait que je vérifie les dates. Parce que, par exemple, je me souviens avoir joué à Tetris, pareil, avec le câble Link, quoi, ouais. À la sortie de la Game Boy, où tout le monde avait ses Game Boy. La vieille version, hein, la grise. La grosse grise.
Alors, j'ai retrouvé la mienne, elles sont plus grises, elles sont jaunes maintenant. Ouais, ça a mal vieilli. Hein.
C'est sur les Game Boy Color, j'ai vu qu'il y avait des mecs qui faisaient des modes, des écrans tout modernes sur ce genre de truc avec trop du rétroéclairage vif et tout, et où tu t'aperçois que les jeux en fait ils sont trop beaux, mais à l'époque ils étaient pas très colorés parce que même la Game Boy Color c'était un peu plat quoi, t'avais genre 16 couleurs mais pas très vives. Bref, et donc il y avait ça, mais je sais que je jouais aussi à Battle.net en nul modem ou AVP ou des trucs comme ça, donc je saurais pas dire parce que là en termes de timeline il aurait fallu que je vérifie les dates, mais ouais. Ouais, peut-être le plus premier jeu Battle.net.
Genre Diablo ou StarCraft ?
Ouais, mais ça, c'était après déjà, non ? Là, je parle de Battle.net, je pensais à Warcraft 2, Battle.net édition. C'est pour ça que... Et avant la Battle.net édition, même en local, ouais, pardon, je dis Battle.net, mais oui, c'est parce que dans mon esprit, c'est associé. C'est la première fois où on a entendu parler de Battle.net. Oh, qu'est-ce que c'est ? C'était comme One à l'époque. Vous connaissez pas One ? C'était le service... en ligne de partie de Valve.
Ah oui, oui, c'est un truc. C'est moi, j'ai connu Goa.
Ouais, Goa pour Unreal Tournament. Ouais,
Half-Life et Counter-Strike au début.
Moi, je pense ma première expérience de jeu en réseau, plutôt pas local, je me souviens pas trop, mais pas local, ça devait être du Unreal Tournament sur une connexion 512-256. C'est le moment où ils sortaient les sous-connexions, c'était peut-être 256, et j'ai compris que c'était pas... Voilà, j'ai compris le lag. J'ai très vite compris ce qu'est-ce que c'était le lag, et quand t'arrives sur un serveur dans le tournament et que tu débutes, et qu'en plus t'as du lag, tu ne joues pas.
Tu comprends vite aussi que ça dépend de là où t'habites, très rapidement. Tu vois que tous tes potes, ils ont la moitié de ta valeur,
oui.
Et qu'eux, ils touchent vachement plus.
Ouais, tous tes potes qui habitent bien au centre-ville, et toi t'habites un peu en périphérie, tu sais...
Ou à la campagne, dans un village...
Ouais.
Ou en Limousin, ça change pas grand chose.
Mais si, en vrai si.
Hein, ça change énormément.
En vrai, moi, j'étais en Lozère et c'est vrai que tu voyais clairement la différence en fonction de la proximité au gros local France Télécom. Quoi.
Voilà. Et si vous avez moins de 20 ans, sachez que la fibre n'a pas toujours existé et que la DSL non plus. Voilà. La DSL, c'est assez moderne. Un jeu qui, pour vous, a repoussé les limites du jeu en réseau. Enfin, pour moi, je pense qu'on va partir dans les MMO. Enfin, clairement, c'est ce qui a été un peu le truc un peu ouf. Genre, mais en fait, on peut jouer à plus que 4, même plus que 10, mais genre, on peut jouer à plein, genre juste plein. Genre, je les compterai pas, il y en a trop. Quoi.
Alors moi, ce serait pas forcément parce que c'est technique, mais j'ai trouvé ça en fait très, très doux, la façon dont Journée a intégré le côté coop. Le côté où en fait, finalement, tu te retrouves avec quelqu'un dans sa partie. Il n'y a aucune interaction à part l'espèce de de petits sifflets. Et du coup, il n'y a pas du tout ce côté un peu... Enfin, il ne va pas y avoir de chat, il n'y a pas du tout d'échange en fait, de mots. C'est juste, tu ne peux que aider la personne avec qui tu joues. Et du coup, ce n'est pas forcément que techniquement, c'est impressionnant ni quoi que ce soit, mais c'est plus que la façon dont ils ont utilisé le co-op et le multi. Et je trouve très original et assez moderne.
Surtout que je ne suis même pas sûr qu'ils te préviennent au début, et c'est d'autant plus étonnant.
Ouais, mais c'est vrai que c'est effectivement, c'était super. Et tu parlais tout à l'heure de...
Dark Souls.
Ouais, Dark Souls, c'est ce genre de jeu qui ont fait de l'intégration multi très douce. Ça fait bizarre de dire le mot douce dans la même phrase que Dark Souls. mais quand même qui évite d'avoir à se poser des questions de trop de comment ça s'appelle, de modération, par exemple, et ce genre de choses. Même si dans Dark Souls, je pense qu'il y en a quand même.
Ouais, il doit y en avoir.
Mais dans le journée, par exemple, il n'y a pas besoin de modération et tu es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut arriver et faire des trucs choquants pour l'autre. Le pire qui puisse arriver, c'est que tu lui fais perdre du temps en essayant de l'amener dans des endroits qui servent à rien, mais tu vois, c'est genre, oui, au pire, c'est rigolo quand même, quoi. Et c'est vrai que ça, c'était... Ouais, je pense que c'est vraiment... c'est des questions de game design, mais qui ont changé un petit peu la façon dont les gens voyaient le multi.
Moi, je dirais, de mon côté, les Jackbox Party, qui ont un style que j'aime beaucoup, qui est que... on peut rejoindre des parties en tant que joueur et en tant que joueur actif et en tant que joueur passif. C'est-à-dire qu'on est viewer et on peut voter pour les, par exemple, pour genre Quiplash, on peut voter pour les résultats, mais on peut pas proposer des réponses, quoi. Il y a que les 8 premiers qui peuvent proposer les réponses, un truc comme ça. Mais tous ceux qui veulent venir regarder les trucs, les conneries que les gens font et voter, ils peuvent. Et du coup, c'est un truc un peu asymétrique, assez sympa, et qui en plus permet d'avoir un nombre un peu indéfini de gens qui peuvent rejoindre une seule partie. Je trouve ça sympa.
Oui.
Je suis en train de repenser, je ne retrouverai jamais le nom, mais c'est un jeu spécifiquement prévu pour Twitch, où c'est une espèce de platformer action 2D, mais où le chat influe en permanence sur ce qui va se passer. Est-ce que c'est une salle dure ou pas dure? Est-ce qu'on donne un bonus? Qu'est-ce qu'on donne comme bonus? Et en fait, tout se base sur le chat Twitch. Donc il y a vraiment ce côté, on se sert d'une infrastructure cloud qui existe et qui est liée carrément à la personne qui joue, et on en fait un élément de gameplay, l'élément de gameplay principal.
Est-ce que tu veux dire que c'est le moment où on devrait parler de Dead Cell, où justement il y a un mode sur Twitch et...
Oui, par exemple, Dead Cell l'a repris de manière plutôt élégante.
Ah ouais, ouais. Même pas.
Ah si, ouais, c'est vraiment bien fichu.
En fait, je crois que tu peux jouer et si tu streams, tu peux avoir un de tes viewers qui va jouer un espèce de corbeau qui a une potion.
C'est
en fait.
Un poulet.
C'est un poulet.
Ouais, ouais, ou un
c'est
poulet.
Un poulet. Explicitement un poulet.
Et du coup, ça c'est intéressant parce que tu dois communiquer avec ton ou ta viewer pour lui dire « soigne-moi ». Parce que
et tu peux pas te soigner.
Tu peux pas te soigner tout seul. En fait, c'est la personne qui doit te soigner.
C'est marrant.
Ou à côté de ça, genre, tu sais, t'as des espèces de parchemins qui te up une de tes stats. Et ben, c'est pas toi qui choisis quel parchemin tu vas prendre. Donc, tu es un peu tributaire du build que les gens vont te construire, quoi.
Ok.
Voilà, plus des trucs un peu relous, genre les ennemis explosent et te font des dégâts, des choses comme ça. Je sais plus exactement, mais c'est pas forcément très sympa pour streamer.
Ça change un peu le jeu et puis ça met un peu de piquant et.
Ça met de l'entertainment, clairement. C'est Motion Twin, c'est bien pensé, forcément.
Et ouais, donc moi, pour le jeu qui a repoussé les limites du genre réseau, après, c'est un jeu qui a repoussé beaucoup de limites, mais je pense que Quake 3, en termes de technique, sur la façon de faire du réseau bas niveau, ils étaient bons. Ils étaient bons partout, mais globalement, ils ont apporté pas mal de trucs à ce moment-là. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que. Il y a eu plein de petites avancées et tout, et puis c'est pas un truc qui a vu beaucoup de révolutions en vrai. C'est surtout une lente progression de « Ah, on peut mettre plus de gens et tout ». Mais ouais, je pense Quake 3. Quake 3 Arena.
Ok. Alors, une dernière question qui est peut-être plus large, plus vague. Un jeu ou un type de jeu qui n'a sens qu'en multijoueur, donc qui n'a pas d'essence en solo, et qui par conséquent dépend beaucoup du réseau, parce qu'on n'a pas forcément quelqu'un avec soi, quoi. Moi, comme ça, je verrai le party game, parce que c'est un peu le principe du party game. Enfin,
le party game contre des bots, généralement, c'est pas...
J'ai le Mario Party contre des bots, bon, ça se fait, mais tu perds un peu une partie du fun, quoi, clairement.
Mais c'est vrai que c'est une question... c'est une question pas si triviale, en fait, parce qu'un MOBA, je pense qu'entre jouer à un MOBA et si t'avais des bonnes IA en face, que suffisamment bonnes pour te proposer du challenge, mais en fait... si tu joues de toute façon tout seul, quelle serait la différence, quoi. Et en vrai, ça serait même probablement plus agréable parce qu'on pourrait te garantir un taux de victoire de 60% et à tout le monde, tu vois. C'est-à-dire que quel que soit ton niveau, bah, en fait, ça va sélectionner des IA qui vont faire que tu vas avoir du challenge, mais pas trop. Et en termes de game design, c'est vachement plus facile de doser la difficulté
ça,
si tu fais jouer des gens contre des IA. Et... Après, moi, je sais qu'aujourd'hui, plus ça va, personnellement, plus... Enfin, je joue quasiment plus à des jeux solo. C'est très rare. Et je joue pas à des jeux multi si je suis tout seul. Je joue à des jeux multi avec des amis. Les gens qui jouent à des jeux multi en ayant Discord, en étant en vocal avec leurs potes, pour moi, ça peut plus passer du multi parce qu'en fait, c'est des jeux auxquels je joue absolument pas en solo. Et d'ailleurs,
j'ai déjà parlé de ce jeu, donc il me semble, je sais plus dans lequel prendre sur peut-être les jeux mobiles, de Space Team, qui est un jeu trop cool qui se joue que en réseau local sur téléphone, et quand même déjà en soi assez rare. Et qui est très très drôle et qui ne peut se jouer qu'à plusieurs parce que c'est tout l'intérêt du jeu. Et qui permet de faire des parties, je crois que c'est jusqu'à 8, avec donc des différents tableaux de bord de vaisseaux spatiaux, avec différentes instructions sur les écrans des téléphones et qui disent d'appuyer sur certains boutons, sur certaines choses, sur des écrans qui ne sont pas forcément. Enfin, les tableaux de bord qui ne sont pas forcément les nôtres et donc il faut communiquer pour. Passer ses instructions sans trop gueuler, en écoutant les autres, etc.
Keep Talking, Nobody Explodes. Un petit peu ce genre de jeu, effectivement, sont des jeux. Ouais. C'est pas juste de la coop où t'es plus efficace en étant en vocal avec tes potes, quoi. C'est des jeux où, en fait, il faut que tu sois capable de communiquer avec d'autres gens.
Typiquement, Keep Talking et Nobody Explodes, c'est impossible d'avoir une intelligence artificielle qui joue à ça.
Ça serait pas drôle.
Oui, ce serait pas drôle en plus, effectivement.
Au final, il y a peut-être même sans avoir des jeux qui n'ont de sens qu'en multijoueur. Je pense que, comme tu disais, il y a plein de jeux où tu jouerais pas si t'étais solo.
Ouais.
Moi, je sais que genre Minecraft, j'ai joué un peu en solo, mais en fait, juste, j'ai pas envie d'aller plus loin à chaque fois. Je me dis, je pourrais construire un gros truc et tout, puis oh la flemme. Alors que dès que tu joues avec tes potes, tu vas faire 15 grottes avec ton pote juste parce que c'est marrant et tu discutes en même temps et tu fais j'ai trouvé un truc, viens voir et tout.
Ouais.
Ça change complètement la façon dont tu joues au jeu, quoi.
T'en as un qui fabrique un truc pendant que l'autre il est parti miner, puis il en a marre donc il va fabriquer un truc, puis c'est le deuxième qui part miner et t'échanges et voilà.
Mais après, ça c'est vrai que c'est très personnel, quoi. Enfin, il y a des gens, j'ai des amis qui jouent plus en solo, quoi, et beaucoup plus. Et moi, c'est vrai que maintenant, plus ça va et plus ça me paraît. C'est-à-dire que s'il y a vraiment un jeu auquel tout le monde dit « Ah, voilà, le scénario, ou je sais pas quoi, machin », mais même ça, souvent, je vais les faire à deux avec ma copine ou des trucs comme ça, parce que tout seul, j'arrive pas à m'y mettre, quoi. Je me dis « Bon, voilà, quoi. » Si un peu les jeux de gestion, ça, j'arrive à m'y mettre. Après, tu te dis « Ah, bah, je vais construire une ville. »
Valeur sûre.
Tu fais une partie, et puis après, t'arrêtes, parce que t'as pas envie d'en faire une deuxième.
Oui, puis t'as passé 15 heures sur ta première partie aussi.
Oui.
Très bien, bah on va pouvoir s'arrêter là. Est-ce qu'on a quelque chose pour aller plus loin si on veut approfondir le sujet?
Un stage chez Nadeo.
Non, mais comme je le disais au début, c'est vrai que c'est une spécialité qui est peut-être un peu... qui est pas forcément aussi balisée, on va dire, que les moteurs graphiques ou les trucs comme ça. C'est plus difficile de trouver de la doc. Ça évolue moins vite aussi. Donc, commencez par programmer des jeux vidéo et puis voilà, mais non, ouais, pas vraiment. Enfin, pour aller plus loin, si il y a souvent des conférences intéressantes à la GDC, des trucs comme ça, c'est quand même il y a quand même pas mal de devs
qui font de la littérature classique que tout le monde a le netcode pour les nus,
chercher le mot socket, ce sera un bon début.
Ouais, voilà, sur la programmation bas niveau, ouais, il y a de la littérature, tu peux trouver le Tannenbaum, je crois, ou des trucs comme ça, sur les réseaux, il s'appelle. Ça explique les fonctionnements de base de tout un tas de trucs en termes de réseau. C'est pas appliqué au jeu et donc c'est pas aussi intéressant.
Très bien. Un dernier mot autour de la table? Non, eh bien on va pouvoir remercier tout d'abord Nadeo, qui comme d'habitude nous héberge, Radio Kawa qui nous diffuse. N'oubliez pas d'aller écouter Nawak en live ou en différé a posteriori un vendredi sur deux. Et pas d'invités, on ne remercie pas nos invités qui ne sont pas là aujourd'hui. Et ainsi s'achève ce 8e épisode de The Game Makers. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur Twitter @GameMakersCast et on se retrouve très vite.
Salut, salut.
Salut.